Salutations les amis, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep. Once again, merci Polysleep. Évidemment, c'est une compagnie d'ici, du Québec. On n'arrête pas de dire dans le contexte actuel que c'est important d'encourager les entreprises d'ici. Alors, en achetant un matelas Polysleep, ben c'est ce que tu fais en plus de bien dormir. C'est bon pareil. Polysleep m'a appris ça. Je savais pas ça, mais un matelas peut peser, après quelques années, deux fois son poids à cause des microbes pis des affaires. Hein. C'est comme, ils m'ont dit ça, là, pis je dors d'un chalet loué, là, moi, là, à cause d'OD. J'ai dormi à terre. Mais bref, ils m'ont dit ça parce que le matelas Polysleep, il y a un traitement antimicrobien intégré directement dans sa mousse, OK? Fait que dans le fond, le matelas est fait pour pas... Comme ça réduit de base la mousse, là, ce avec quoi le matelas est fait, ça réduit les allergies, les microbes et les acariens. Donc, le matelas Polysleep fait pas ça. Alors, tu vois, si j'avais un matelas Polysleep ici, je dormirais sur un matelas. Polysleep est assez smart pour vous offrir à vous, les amis, à ceux qui utilisent ça, un code promo de 25% off sur tout, sauf les sommiers. Les sommiers, ça y voulait pas. Les sommiers ont fait « Hey, là où tu es plein bris, où j'ai rien. » Mais pour tout le reste, c'est 25% off si tu utilises le code promo OJAY25. As-tu remarqué comment je l'ai pas dit? Je l'ai juste éplé parce que ça fait OJ. En tout cas, je sais pas s'il y avait passé. OJAY25 pour 25% de rabais surtout. Et c'est très important, cette offre est valide jusqu'au 18 octobre 2020. Je le mentionne, parce que là, ça se peut que quelqu'un écoute le podcast en février 2023. Fait qu'en vrai, j'ai du lousse. Non.
Une production du Studio SF.
Salutations les amis, encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discuter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec un gars que j'ai déjà reçu sur le podcast. Pardon, il s'appelle Alexandre Champagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un photographe, entre autres, mais maintenant cofondateur de la fondation Le Ciel, qui est une fondation qui, en fait... vient comme expliquer aux adolescents comment avoir une relation saine avec les réseaux sociaux. En ce que j'espère que je l'ai bien nommé. Et on en parle dans le podcast. On a une conversation qui commence sur comment Alex est arrivé un peu en retard au podcast. Fait que il nous explique pourquoi il était comme en hélicoptère avec un ami, parce que c'est ça sa vie, visiblement. Puis on a parlé de plein de trucs. J'aime beaucoup le fait qu'il est très exigeant envers lui-même, mais pas de manière négative. Tu sais, comme il prend action, je trouve ça cool. En tout cas, bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec mon ami Alexandre Champagne.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Mais c'est débile comment ça se dépose n'importe où, là, un hélicoptère.
C'est, c'est que c'est tellement agile. Mané, on passe à côté du château Montebello, puis il est comme, hey, bouge pas. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, il lande, il dit, si je montre que j'ai atterri, je peux voler vraiment plus bas, parce que normalement, au-dessus des villes, c'est 1000 pieds minimum. Nous autres, on était à 400. Fait qu'on passe là, man, on rase les arbres. Puis c'est, les couleurs, là, c'est...
C'est fou,
man. Insane. Puis là, dans le réservoir du poisson blanc, mon gars, il faisait des tours à 90, là. Tu sais, quand il tourne, puis il est là. Ça je pas... regarde demain. J'étais genre, yeah! Il dit, t'as pas le mal des transports. Je suis comme, non, non. Vas-y. Fait que là, on était supposé revenir le soir. Puis là, il dit, hey, il dit, il y a le casino du lac Lémy, on pourrait dormir au Hilton, manger au resto. On déjeune là demain matin, puis on repart. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Puis finalement, il y avait moins d'essence qu'il pensait, fait qu'il a fallu s'en venir moins vite. Fait qu'on a perdu comme 20 minutes environ. Fait que
c'est
ça que j'ai texté ta soeur hier, je dis, je peux-tu comme le faire plus tard, si jamais vous avez le studio jusqu'à plus tard? Parce que si jamais arrive de quoi, je vais te conter l'histoire. C'est un peu cave comme raison. Là, je suis désolé. Puis comme...
C'est parce que j'ai eu des troubles avec l'hélicoptère de mon ami Hugues.
Mais c'est cher, man. C'est cher, un hélico, ça n'a pas de bon sens.
C'est terrible. Moi, c'est la première fois que j'en ai fait. Cette année, à OD, on a des hélicoptères. Genre.
OK.
Puis moi, dans le fond, le chauffeur, un des chauffeurs de la compagnie qui s'appelle Steve, qui est fucking sweet, Man, il chauffe ça comme un go-kart. Là. Lui, genre, ça fait 1000 ans qu'il chauffe ça. C'est une légende. Puis en plus, c'est que le joystick, je sais pas s'il t'a fait tenir le joystick.
J'aimais pas ça, man.
Moi, j'ai demandé, je suis comme, comment ça marche, tu sais. Comme... Puis là, dans le fond, les deux. Puis dans le fond, c'est que j'ai fait mon premier tour. Il m'a montré, genre. Okay. Puis après ça, on a fait une sortie au vignoble chez mes parents.
Ouais.
Puis ils m'ont ramené aux maisons d'OD en hélico. Puis j'étais comme, c'est quoi ma vie,
genre? Ah, c'est ça,
quoi qui se passe, tu sais. Je suis parti de chez mes parents. En hélicoptère pour retourner à mon emploi qui est occupation double. C'est gênant, mon gars. C'est gênant au bout. C'est gênant. Puis là, j'ai demandé genre comment. Il était full fin. Puis, dans le fond, les pédales, si je me trompe pas, c'est.
C'est la queue en arrière.
C'est ça. Fait que c'est pour de même.
Ouais.
Puis après ça, t'as le joystick, tu sais, qui est de même.
Ouais, pour te
mais
pitcher.
Il est tel. C'est tellement sensible.
Ah, c'est fou, man.
Fait qu'il faut vraiment que tu sois calme pour tenir ça, genre. Puis.
Ouais, c'est ça, tu peux pas, il dit, tu peux pas vraiment pousser la machine. Il y en a qui le font, mais c'est parce que ta longévité, un hélicoptère, il dit moi, la première que je voulais acheter, c'était une 1978. Là. Elle est faite au complet, puis il reste trois tubes en acier, puis d'acide dessus. T'sais. Il dit tu y fais attention, ça dure longtemps, mais il dit c'est quand même sensible. Puis c'est drôle parce que dans son hélicoptère à lui, c'est Airbus qui fait ça, qui font aussi des avions de chasse. Fait qu'au lieu de faire 17 joysticks différents, ils en font un qui est bon pour tout. Fait que sur son joystick, t'as un piton pour les missiles, la caméra live si t'as un hélicoptère de journaliste. Fait qu'il dit, je peux faire ajouter ce que je veux là-dessus, man. Je peux faire ajouter des bombes si je veux.
Mais c'est terrible, mais ça coûte tellement cher.
Ben, celle-là, celle qu'il y a neuve, c'est 3,8 millions US.
Ça n'a aucun bon sens.
Puis lui, il l'a acheté usagé à moins que la moitié du prix. Avec 7 ans d'usure dessus. Mais tu sais, c'est entretenu à chaque année. Il y a des montres au complet.
C'était...
Il brosse les petites pieds. Ben, pas lui, là, mais il fait faire ça. Là. Il y a un gars qui l'a sorti du garage, il a accroché une pale, un genre de 1 cm, juste comme frotté, genre. Fait que là, il faut qu'il l'envoie en France, la faire passer au rayon X chez Airbus. Ça coûte 200 000 faire
c'est
ça.
C'est
terrible. C'est l'assurance qui paye, mais il y a un déductible de 50 000.
C'est terrible.
C'est pas une poque, est-ce que tu... C'est juste pas comme je me suis fait accrocher au Canadian Tire. Là. Fait que c'est ça. Fait que
t'es revenu en hélico ce matin.
Mais je suis parti hier en hélicoptère. J'étais supposé revenir comme au coucher du soleil. Puis je suis revenu là. Je viens d'atterrir à Saint-Hubert.
C'est malade.
On a passé il y a tellement pas personne dans le ciel. On a passé par-dessus l'aéroport Trudeau.
Ouais.
Il n'y avait pas un chat. Par-dessus le Mont-Royal, par-dessus Centre-Ville. T'as jamais le droit de faire ça d'habitude. Faut que tu demandes des permissions 2-3 semaines d'avance. Puis moi, j'étais avec mon Kodak.
Ah, c'est sûr.
C'était fantastique.
C'est hot.
Ouais.
Fait que là, comment tu te sens?
Je me sens bien.
Ouais?
Ouais, je me sens bien. Ça change, tu sais, tu changes l'air un peu, là.
Ouais.
Tu sais, on a décollé, puis là, on jase, qu'on est rendu où? Il est comme à Saint-Jérôme. Ça faisait 15 minutes qu'on était parti. J'avais rien vu.
C'est espèce, ça va vite, en plus. Tu t'en rends pas compte parce que t'es haut.
Ouais.
Et moi, il m'expliquait, on allait à comme, je pense, c'était 290 km/h.
Entre 250 puis 350, là.
Man.
Puis tu le vois pas, là. Puis là, des fois, ils volent au-dessus de l'autoroute pour faire les bonnes routes. On dépasse les chars, mon
c'est
gars. C'est fini.
Ah oh, ouais. C'était-tu la première fois que tu faisais ça?
La troisième.
OK.
La troisième. Première fois, un tour d'hélicoptère avec la job à ma mère. Les patrons ont payé ça, tu sais. Il y avait comme la fête des employés, puis il y a un gars qui faisait des tours d'hélicoptère. On montait puis on descendait. Après ça, avec Alexis,
on était
allé en road trip en Californie.
Ouais.
On est allé jusqu'à Vegas. Puis à Vegas, il y avait comme un parking de RV, un stationnement pour les véhicules routiers. Puis là, quand on s'en va, c'est une espèce de lobby. C'est comme un hôtel, mais au lieu d'être des chambres, c'est des parkings. Puis là, tu mets ton RV. Puis là, on est allé voir la fille, puis c'était écrit Grand Canyon Helicopter Tours.
Ouais.
Fait que là, on fait comme « Wow! » Fait que là, j'ai dit « Alexis, on le fait-tu? » Puis on est allé rejoindre mon meilleur ami, Joe Lavoie-Lévesque, qui est à San Francisco. Il travaille là depuis 3 ans. Fait que lui, il est venu nous rejoindre. Il a pris un vol de San Francisco à Vegas. Puis nous autres, on partait en camper de Los Angeles. Fait qu'on s'est rejoint là-bas, les trois gars. Puis là, on a vu la pancarte. Fait que je disais à la fille, what about the helicopter tours? Puis elle dit, oh, choose Maverick. They're the safest. Fait que là, je suis comme, de quoi c'est les plus sécures? Elle dit, yeah, all the other ones. Comment elle dit ça? Elle dit, all the other ones, they crashed.
Tabarnan.
Fait que là, j'étais comme, OK, puis ils sont encore en business. Elle fait, ouais, mais Maverick, ils ont jamais crashé. Fait que je suis comme, on va prendre Maverick.
Oui.
On va y aller avec Maverick. Fait que là, le pilote, qui est un ancien pilote de l'armée, je te dis, là, il y avait une ligne à terre, une ligne jaune pour suivre le chemin, là, pour aller décoller en hélicoptère. Mieux que moi avec un crayon sur une feuille de papier. Là.
Incroyable.
Puis là, ils nous ont amenés jusque dans le Grand Canyon. Puis d'habitude, on fait pas ça. Ils se sont trompés. Ils pensaient qu'on avait payé le Extreme Tour, mais on avait payé comme 200$ US. On était supposé décoller, y aller puis revenir. Puis là, on a décollé, on a atterri dans le fond. On a sillonné la vallée du Grand Canyon en hélicoptère avec la chanson des Valkyries, là, la toune classique. Puis Alexis était vert. Vert, mon gars, comme tes cheveux.
Ça, c'est vert.
Je prenais des photos sans qu'il me voit. Puis écoute, on a capoté, là. C'était plus là en fin de semaine. C'est
tellement spécial, le Grand Canyon.
Ouais, es-tu déjà allé?
Je suis allé deux fois avec ma famille quand j'étais kid. Je pourrais pas dire que je m'en souviens très bien.
Ouais.
Puis l'année passée, comme cadeau de tournée, mettons, moi, j'ai invité mon directeur de tournée de ma première partie, Charles Pellerin, puis Alex, mon directeur de tournée, à aller voir Céline à Vegas avant qu'elle finisse. On était comme, Chris, pourquoi on est voir Céline? Si, genre, on peut pas ne pas faire ça. Fait que j'ai trouvé des billets, on a acheté ça, puis il y a une des... En gros, on était allé voir des shows à Vegas, puis même avant d'aller à Vegas, Alex a eu l'idée, comme, Chris, vous me parlez toujours du Comedy Store à LA, genre, on va-tu là avant, puis après ça, on va à Vegas. Fait que on a fait ça. Puis à un moment donné, il y a une journée, on a fait on pourrait aller au Grand Canyon, mais on n'était pas du bon bord, là, tu sais, il y a comme deux côtés, je sais pas trop. Fait qu'on est allé voir d'un bout, là, c'était beau, là, mais c'était un peu comme bas.
T'es pité en haut.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, mais moi, j'arrêtais pas de dire, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en hélico, mais c'est hors de prix, là. Normalement, ce qu'on a payé, c'était 675$ US par personne.
Ouais.
Puis ça nous a coûté 200 US pour la gang.
Ah.
Le pilote s'est comme trompé. Il fait je pensais que vous étiez le Extreme Tour. On était comme, Puis quand t'es arrivé, ils sont comme, hey, it's on us. J'étais genre, au secours. C'est vraiment, tu sais, le cul béni, là, à 100%.
J'adore notre conversation. Hey, toi, ton hélico, ton
hélico. C'était quel hélico? c'était vraiment quelque chose. Voilà.
Comment tu vas?
Ça va vraiment bien.
Ouais?
Ça va bien. Ça a été une période difficile, là. Ben un peu. Quand est-ce qu'on s'est vu nous autres? On s'est vu en décembre.
Ouais, on s'est vu au Centre Bell.
La dernière fois, c'était en janvier.
Puis juste avant, on avait jasé ici.
Ouais.
On avait été souper après.
Ouais. C'est vrai. Au Holder.
Ouais.
I remember. Puis le cousin d'un gars que je connais, il s'était pris en photo avec toi. Je me souviens pas c'était quoi. T'avais encore les cheveux longs dans ce temps-là.
Good old days. Les temps changent. Ça change, hein?
Ça change,
ça a changé. Cette année, là, il y a eu... Je repensais à toutes les étapes de mon année. Là.
Ah, man.
J'étais comme... Hey, il s'est passé bien les affaires. Là.
Ouais.
Puis je pense que c'est le même pour tout le monde.
T'sais. Je sais, c'est comme s'il y avait eu 25 vies depuis... on passe à travers une pandémie. Là.
Ouais.
Ça, c'est quand même très anxiogène. Moi, je l'ai vraiment bien vécu. Je trouvais que c'était très stimulant au niveau intellectuel parce que on devait trouver des solutions. Tu sais, quand tu fais des affaires dans la vie, tu tâtes un peu le pouls, tu sais, d'un paquet d'affaires, le marché, l'actualité, qu'est-ce qui s'en vient dans un paquet de domaines, pour moi la sphère culturelle surtout. Puis là, avec une incertitude comme ça, t'as comme des, je sais pas, je me fiais plus. Puis tu sais, je dis ça, je suis encore une fois, on parlait tantôt d'avoir le cul béni là. Je me trouve très privilégié dans cette situation là. En même temps, je me mettais à financer moi-même une fondation que je mets sur pied. Fait que c'était stressant, mais c'était le fun. C'était comme, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ces défis-là? Puis ça m'a comme ramené à avant que je lance trois fois par jour, quand tout était à faire, tu sais. Puis les ressources étaient quasi inexistantes, puis il fallait avoir du jus de bras puis de la débrouillardise. Fait que ça a été, pour moi, ça a été le fun, mais en même temps, je suis très, 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 très affecté par comment certains groupes de gens réagissent à tout ça, tu sais. L'absence, puis c'est sûr qu'on met beaucoup l'emphase là-dessus. C'est un petit groupe de personnes là, qui sont dans la théorie du complot puis ces affaires-là, mais ça me fait quand même quelque chose parce que je me dis, tu sais, ça serait là le temps de comme laisser tomber les barrières un peu puis d'essayer de se donner la main puis d'aider. Il y a une récession épouvantable qui s'en vient. On a déjà commencé. Puis en même temps, moi, ce qui me fait un peu capoter, puis là, c'est pour les initiés de la bourse et compagnie, c'est que oui, il y a beaucoup de compagnies qui ont fait de l'argent en bourse, dont les valeurs boursières ont beaucoup augmenté, mais c'est extrêmement spéculatoire. T'sais. C'est basé sur rien. C'est pas des valeurs actives concrètes, c'est pas du cash. T'sais. Fait que en ce moment, ça va, mais ça va chier, mon gars, dans quelques années. Et c'est pas que je suis fataliste, c'est juste que si tu regardes les tendances historiques, c'est un peu ça qui se passe. Fait que tout ça mis en même temps, ça fait qu'on est rendu au mois de septembre. J'ai l'impression que j'ai vieilli 4 ans. Genre. J'ai comme du gris dans la barbe. Ma fille rentre à l'école l'année prochaine.
Comment ça a été avec ta fille pendant tout ce temps-là?
Super bien.
Ouais.
Ça a été super bien parce que ça a pris un temps avant qu'on envoie Jean à la garderie. Puis je dis super bien de mon côté parce que je l'ai pas à temps plein non plus, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est j'ai comme ça, le meilleur des deux mondes, tu sais.
Ça te permet de partir en hélico un samedi soir et faire.
Hey, on dort ici.
Hey, on dort ici.
On dort-tu au CAS?
On est-tu assez des bons?
On se refait demain, esti. On reviendra d'une manière que ça nous tente. On verra ce qu'on gagne sur le rouge.
C'est ça, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, garde, on arrive à l'hôtel, on va au casino, on met tout ce qu'on a, toi puis moi, sur le rouge.
Si on perd, on revient sur le pouce.
C'est ça.
Puis ce sera ça, notre nouvelle
On laisse
vie.
Le chopper en haut.
OK.
Ça sera un souvenir. Puis en tout cas...
Tu sais, quand, comme quand t'écoutes Into the Wild, le film, t'as-tu déjà vu ce film?
Oui, oui, oui.
Quand t'es d'une période de ta vie, moindrement, il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie, t'écoutes ce film-là, t'es comme... faire brûler tout mon cash, partir à pied, pas le faire!
Let's go!
Fait que ça, tu reviens, tu fais juste retourner souper chez tes parents, t'es comme... Ah non, vraiment, non,
Le confort m'attire un peu, là. Mais c'est ça, c'est fou, parce que dans ma vie, j'ai passé à travers un paquet de situations comme ça où est-ce que... Je pense que c'est important de rester observateur. Tu sais, comme le tour d'hélicoptère, ça, c'est un privilège extraordinaire, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, faut que je fasse mes licences. Puis c'est, pour moi, c'est pas envisageable d'acheter un hélicoptère.
Mais non.
C'est complètement ridicule. Et tu peux louer des heures ou faire des choses comme ça. Tu sais, mettons, un 10 heures, si tu veux louer un hélicoptère, mettons, t'as ton permis, mais t'en as pas une à toi, c'est 16 000 piastres. Fait que, tu sais, c'est un autre niveau de vie là, qui a pas de bon sens. Puis avec les décisions que j'ai prises, justement, quand j'étais venu te voir pour t'annoncer la fondation, c'est mais quelque chose qui est très attirant pour moi là-dedans, c'est de faire comme, man, t'as un hélicoptère, tu peux juste aller en ligne droite. Tu sais, des fois, tu calcules la distance entre deux points, puis tu te fies pas aux autoroutes, puis tu fais juste... Fait que c'est un autre niveau de vie, mais je pense que c'est important, c'est ça, de rester observateur, tu sais, de voir comment tu...
Mais est-ce que tu fêtes... contre toi-même, tu sais, comme quand tu me dis justement que tu as vendu tes affaires, t'sais, que toi, tu vois un hélico, puis il y a quelque chose. Est-ce que, mettons...
ben, pour l'hélico, non.
Non, parce mais que... tu comprends ce que je veux dire.
Mathématiquement, c'est impossible pour moi.
Non, mais des fois, tu me sembles, puis c'est pas négatif ce que je te dis, là, mais au contraire, mais puis moi aussi, ça m'arrive des fois de faire... C'est tough de battre contre toi-même. C'est comme, Chris, j'ai ça en moi, cette bébelle-là de... J'aime le stock, tu sais.
Ouais.
Puis j'ai les moyens de m'es acheter.
Ouais.
Mais c'est pas ça que je veux être.
C'est que je pense que pour avoir des choses en abondance, ça demande des grandes qualités. Tu sais, que tu sois riche, savant, populaire, beaucoup de visibilité, beaucoup d'influence, ça doit, puis on le voit de plus en plus avec la mondialisation, puis la connexion qu'on a avec les autres personnes partout sur la planète. On a accès à l'information, on a accès à l'état dans lequel ces personnes-là vivent ailleurs dans le monde, tiers-monde, quart-monde. Je pense que quand t'arrives à un certain niveau, puis là, je parle pas de mon niveau à moi, là, tu sais, je parle comme si j'avais des manoirs,
astille. Non, genre.
Mais tu sais, je veux dire, je suis quand même très chanceux, je gagne bien ma vie, je vis bien, je suis pas à plaindre. Mais je pense que quand t'as quelque chose comme ça, ça vient avec des... Il faut que t'aies des qualités pour gérer ça, sinon, tu tombes dans la névrose, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des gens que je connais qui font des salaires faramineux, tu sais, des millions par année, puis c'est jamais assez. L'insécurité est la même que si t'avais 30$ dans ton compte de banque à la fin de la semaine.
Ouais.
Parce que l'enjeu est pas pareil, c'est la même chose, mais scaler différemment. C'est juste que, étant donné qu'on est capable d'établir un coût de la vie, je te dis, OK, si je te donne tant par année, t'es capable de comme être chill, tu sais, ça va bien aller, tu vas bien t'en sortir, tu peux bien manger, tu peux voyager un peu, avoir des loisirs, parce qu'il y a cette partie-là qui est importante. Les besoins primaires, ça va, mais à un moment donné, un esprit a besoin de se divertir, puis d'aller plus loin, puis de s'étendre, puis de faire du chemin. Fait que, je pense que ça prend des grandes qualités. Puis moi, je pense que quand c'est arrivé, la fortune, j'avais pas ces qualités-là. Du tout.
C'est quoi ces qualités-là?
Ben, je pense que ça prend beaucoup d'humilité, ça prend du contrôle, une connaissance de soi, ça prend une grande intelligence émotionnelle, je pense, parce que c'est moi l'argent me brûle dans les mains, littéralement. Quand je fais beaucoup d'argent, je dépense beaucoup d'argent. Il y a pas d'intelligence à zéro. Puis avec les années, bien sûr, ça change.
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que moi, la seule chose qui m'importe, c'est comment ma fille me voit. Puis j'essaie toujours de me voir à travers le regard de ma fille. Puis je suis pas parfait là. J'ai des fautes dans mon parcours, des erreurs, des choses comme ça. Puis j'essaie de voir comment ma fille me voit au moment auquel je vis, tu sais, parce qu'il y a un gars que j'avais photographié qui s'appelle Marcus Samuelson, qui est un chef renommé mondialement, qui était à Chef Stable à un moment donné. Je savais même pas c'était qui quand il est arrivé au studio pour le photographier. Il voulait pas me donner son identité avant la journée où je le rencontre.
Dans quel contexte il est venu?
J'ai fait un show. Dans le fond, ils ont ouvert un Four Seasons à Montréal.
Ouais.
Puis Marcus signait la carte du restaurant. C'était le Marcus Montréal. Puis il avait besoin des photos du chef. Fait qu'on est allé se promener à Montréal, faisait des photos. Puis quand j'ai rencontré au studio, je le connaissais pas du tout, du tout.
Ouais.
Mais il était habillé, mon gars, un gars qui a du goût super bien, comme c'était loin de moi. Slick, là. Vraiment fantastique. Fait qu'on a commencé, puis il était un peu upset parce qu'il s'était fait dire que le shoot était à 6 heures le matin, mais nous autres, on avait sur le call sheet, c'était à 9 heures. Fait qu'il a attendu 3 heures seul dans mon studio, il faisait fret.
Oh.
L'automne. Mm-hmm. Il était un peu pissed, puis Alexis, mon assistant, était là pour le. Il a comme amadoué, finalement. On a passé une journée extraordinaire, puis il était vraiment gentil. Puis il dit. Il m'a dit un truc, je vais le traduire librement de l'anglais au français, ouais. Là, mais il dit. Il dit, je suis mieux de faire quelque chose de vraiment bon quand je suis pas avec mon enfant, parce que je suis pas avec mon enfant pendant ce temps-là. Fait qu'il dit, tu sais, tant qu'il n'y a pas été avec lui, je suis aussi bien de faire de quoi qu'il y a vraiment un purpose, puis un meaning. Puis j'étais comme, man, c'est tellement puissant. Il y a comme rien de plus important, je trouve, que d'être avec son enfant, puis de l'élever, puis d'être là, tu sais, d'être présent à sa création, finalement. Là.
Mm-hmm.
Fait que ça m'avait vraiment fait de quoi, puis depuis ce temps-là, on dirait que j'essaie de me voir à travers ses yeux-là, tu sais. Fait que ces qualités-là que j'avais pas, l'humilité, la première fois que j'ai fait, c'est que je me suis mis à m'acheter des voitures, puis des appareils photo de collection, puis des affaires comme ça. Puis à un moment donné, ben, comme on s'en était parlé la dernière fois, j'ai fait comme, ouais, je trouve que le niveau de vie. Parce qu'à un moment donné.
Mais est-ce que tu achetais ça pour toi ou pour flasher? Ou...
Les deux.
Les deux.
Oh, ouais, je l'assume carrément, là, tu sais. Ma première vraie voiture que j'ai achetée, c'est un camion Mercedes, tu sais. Puis comme quand j'arrivais à l'épicerie, puis j'étais en jogging avec une casquette, puis j'avais l'air d'avoir 19 ans, les gens étaient comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est sûr qu'ils se disaient que je l'empruntais à mon père, là. Tu comprends?
Ouais.
C'est comme, tu sais jamais ce que les gens pensent, tu comprends? Moi, je voulais projeter une image, puis en fin du compte, je me rendais compte que ça donnait rien, tu sais.
Puis mettons, j'aime l'idée que tu veux, tu sais, plaire à ta fille, ou du moins, t'es curieux de savoir comment ta fille te perçoit, mais toi, comment tu te perçois?
Moi, je suis assez sévère avec moi-même. Tu sais, on parle là, récemment, j'ai pas découvert ça, mais on parle de plus en plus publiquement. On suit les mêmes pages sur Instagram, les comptes de Young Pueblo,
oui.
Create the Love et compagnie. Puis la voix intérieure, la manière que t'as de te parler, puis mon enjeu, je te dirais, ces derniers temps, c'est d'ajuster cette voix-là pour l'empathie, la compassion, tu sais.
Ouais.
Quand tu fais quelque chose de pas correct, de pas te le reprocher, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand j'ai mis la fondation sur pied, j'ai fait une vidéo, on a sorti le podcast, puis je disais que je cherchais quelqu'un pour me donner un coup de main, pour être mon bras droit. Je voulais vraiment quelqu'un qui allait mettre concrètement sur papier ce qui me sortait de la tête, puis tout ça.
C'est quand même space que t'as parti la fondation. T'as comme tout fait à l'inverse, genre.
Ouais.
Hey, j'ai une idée, on va faire une fondation. J'aurais besoin du monde pour m'aider à faire la fondation.
S'il vous plaît, guys. Puis finalement, on est un petit groupe de quatre.
Mais c'est fucking aussi... J'aime l'idée, puis tu sais, dans le podcast, moi, je trouve que c'est le fun, ça. J'aime, puis avec la fondation, je pense que tu l'as lancé à cette manière-là, d'être... c'est là que je suis rendu dans le processus, la gang. Mais je veux me rendre là. Comment... qui j'ai besoin d'aide, tu sais. Il y a quelque chose de super vrai là-dedans, tu sais.
Ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai réalisé que j'étais très, très lone wolf au début. Tu sais, moi, j'ai fait l'école de l'humour, j'ai fait des shows, tout ça, t'as fait l'école aussi. Puis j'ai trouvé pendant la tournée que ce métier-là allait m'amener, puis instinctivement, je l'avais pas nommé comme ça à ce moment-là, mais allait m'amener vers la solitude beaucoup. Puis je dis pas que t'es seul, je dis pas que les autres
non, mais
sont seuls. Mais quand tu fais des shows en tournée, tu l'as fait, t'es tout seul en esti, mon gars, là. Tu sais, tu fais des salles, 2000 personnes, 4000 personnes, 5000.
Mais tu dors tout seul à l'hôtel.
Après, tu dors tout seul à l'hôtel, dans ton petit hôtel, que t'essaies de payer le moins cher possible parce que tu veux sauver sur l'overhead. Puis là, tu fais comme, hey, c'est space, man. C'est un ou l'autre. Puis pour moi, ça crée, en tout cas pour moi, avec les qualités que j'avais à ce moment-là, ça me crée un déséquilibre puis beaucoup d'angoisse. Parce que je réalisais que oui, j'aimais ça être seul, mais en même temps, je réalisais que si j'étais trop poussé vers mon bien-être et mon confort, ça me donnait pas envie d'objecter ma conscience puis d'aller plus loin dans mes réflexions puis dans mes manières de faire les choses puis d'évoluer.
Donc, si, mettons, toi, ta vie va trop bien, tu deviens trop confortable.
Oui.
Okay.
En fait, c'est que c'est pour ça la fondation, c'est pour ça le studio, c'est pour ça les cours, plus de photos, tout ça. Les gens sont comme, il est vraiment indécis, puis on dirait qu'il a besoin de... Ben oui, c'est vrai que je suis indécis, puis j'ai comme une face publique, fait que j'en parle publiquement. Mais moi, je trouve quelque chose, en tout cas, je pense, là, puis je dis ça en toute humilité, mais qu'il y a quelque chose d'honnête là-dedans. Parce que moi, j'ai vu mes parents avoir le même job toute leur vie. Ils sont bien corrects, ils trouvent ça cool. Mon père, ça l'a affecté peut-être un peu plus, mais moi, j'avais pas envie, je suis pas capable. Ben oui, j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité qui a aucun sens. Faire du 9 à 5, avoir un patron, c'est impossible pour moi. Je ne cadre pas là-dedans. Je pourrais me forcer puis le faire, mais ça me tente pas.
Mm-hmm.
Puis j'ai
puis t'as le luxe de pas avoir à le faire.
Ben j'ai développé des manières de pas y arriver.
C'est ça.
Mais ça a un prix, tout ça, tu comprends, tu sais. Mm-hmm. C'est pas facile. Je suis pas passé par des endroits agréables pour me rendre là. t'sais, nécessairement. Fait que il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis anyway, tu peux pas juger la vie de quelqu'un de l'extérieur.
C'est, non, exact. C'est très difficile. Mais est-ce que tu ressens le besoin d'expliquer le fait? Parce justement, tu sais, la vie publique, c'est une affaire qui est un peu weird. La vie publique au Québec, mettons, c'est quand même, ça se veut. Je parlais de ça avec un quand j'étais en voyage avec mon le gars qui j'ai voyagé, Laurent, qui lui, c'est le frère à mon ami Guillaume Girard. Mm-hmm. Je l'ai croisé là-bas par hasard en Nouvelle-Zélande. Son frère, ouais. Laurent, qui est la version plein air de Guillaume. Fait que remplace genre le théâtre puis la poésie par des Merelles.
Les Merelles puis les Barcliffs.
Ouais, okay, exactement. C'est lui, cool. Tu sais. Puis Laurent, prof de maths, il a 47 ans aujourd'hui, il avait 46 quand on voyageait. Il a pas de deux ados, pas de télé chez eux. Lui, comme il coupe dans le gras parce qu'il veut partir en voyage un peu tout le temps. Pis ça. Fait que lui, dans sa tête, j'étais l'ami à Guillaume. Il savait pas j'étais qui, tu sais. Mais maintenant, on se met à parler de ça, pis ça, pis j'arrêtais pas de dire, je suis comme, ouais, mais tu sais, je veux dire, je suis pas, tu sais, connu au Québec, on se calme, tu sais, dans le sens, je suis pas Justin Bieber, tu sais, je peux venir ici, en Nouvelle-Zélande, pour m'évader, ou je peux juste aller à Westmount, pis ça va, là, tu sais.
À l'ouest de la rue Saint-Laurent,
ouais, t'es fucking relax, tu sais. Et comme, ouais, mais au Québec, t'es connu l'équivalent de Bieber dans le monde, dans le sens où il était comme, tu sais, il y a ça, tu sais, pis j'étais comme, je mettais quand même un astérix, là, le monde est fucking gentil ici, là, puis le monde se pitche pas sur nous autres. Mais est-ce que tu sens... Parce qu'en plus, je trouve ça a rapport avec ta fondation, tu sais, l'utilisation des réseaux sociaux, il y a quelque chose de super positif là-dedans, il y a quelque chose de néfaste là-dedans. Mais est-ce que tu te sens obligé de tout dire, tes décisions, justement, faire « Hey, finalement, je fais plus ça. Ah, je fais encore ça, finalement. » Ou ah, tu sais, est-ce que tu te sens obligé?
Ben, considérant que la majorité du marché que je vais chercher puis du public dont j'ai besoin pour, par exemple, vendre mes ateliers de photos, ben, j'ai pas vraiment le choix de les tenir au courant parce qu'il y a encore une demande qui est très forte pour les ateliers de photos. Je veux continuer à les faire. C'est ça qui me paye, en gros. C'est pas, certainement pas la fondation qui me rapporte, là, tu sais. Puis j'ai eu des commentaires comme quoi c'était une façon de blanchir de l'argent. J'étais comme, faut vraiment qu'on éduque les gens fiscalement puis économiquement au Québec parce que ça avait pas de bon. Je suis pas une fondation privée de toute façon. Fait que c'est très, très legit, là. Ouais. Tout ce qui est fait pour les gens qui se posent la question. Puis, anyway, j'ai une face publique. Fait que, pour 10 000 je ne vais pas me mettre dans l'eau chaude. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Fait qu'on dirait que c'est comme un réflexe. Est-ce que c'est pour me justifier? Je te dirais de moins en moins. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des parties. Tu sais, quand j'ai eu ma rupture au mois d'octobre, amoureuse, il y a des moments où je mettais des trucs sur Instagram juste parce que j'avais besoin de likes, puis j'avais besoin de sortir de la. Écoute, ça a été très très difficile pour moi cette période-là. J'étais allé très très bas dans mes pensées, dans mes idées noires, tout ça, puis. Une chance que j'étais vraiment bien entouré, tu sais, parce que puis on en a parlé aussi pendant cette période-là. J'avais des bons amis à qui j'ai reach out. Ça a été vraiment difficile.
Comment tu t'es sorti de ça?
La thérapie, la lecture, la méditation. La méditation, elle m'a vraiment aidé.
C'est quoi tu médites? Par où tu médites? C'était-tu l'application que je t'avais donnée?
Oui, au début. Insight? Insight Timer ou?
C'était l'autre. Je l'oublie, là, mais...
C'est-tu Calm? Non, c'était pas Calm.
Non, c'était pas Calm, c'est genre...
C'est l'autre.
Ouais, c'est l'autre.
Il y en a comme 3 ou 4, là. C'est l'autre, c'est celle qu'on n'arrive pas à trouver. Jamie, pull that up. Shit. En tout cas.
Mais, ouais,
je sais de quoi tu parles. J'ai commencé avec ça, puis après ça, j'ai écouté le podcast que tu m'as envoyé de Naval Ravikant avec Joe Rogan.
Oui.
Puis il dit, la méditation, là... Une heure par jour, tu fais rien. Pas de musique, pas de son, pas de bol de cristal marin qui va faire de quoi. Quoique j'aime beaucoup le son de ces trucs-là. Rien. Fait que là, pendant... Je suis parti dans les cantons de l'Est pendant 10 jours. Pas de téléphone, pas d'Internet. Je me suis acheté un flip phone au cas où. Rien de ça.
J'aimais que tu as fait le move pour les gens qui nous écoutent audio.
Un flip phone.
Les gens qui nous écoutent sur YouTube ont eu le luxe de voir, de comprendre. Parce que les plus jeunes ne savaient pas de quoi tu parlais.
Non.
Mais j'ai aimé le move.
Puis écoute, j'ai envoyé des messages textes à ma mère. 1, 2, 3.
Oui, oui.
1, 2, 3, 1.
Allô.
Allô. Hey, c'était long. J'avais pas envie, tu sais.
Ouais.
J'avais envie de reconnecter avec mon instinct, ma manière de me sentir, puis tout ça. Puis à chaque matin, 5h du matin, je me levais. 5 à 6, je méditais. Je me rendormais pas. L'état dans lequel j'étais était extraordinaire. Juste les yeux fermés, t'es comme entre le sommeil puis l'éveil. Je pensais à... Ben, en fait, la méditation, le but, c'est de laisser aller. C'est comme si tu t'en mêles des fils d'écouteurs. puis après ça, tu les lances pour qu'ils se désemmêlent tout seul. Ton cerveau, il unwind. Il y a un mot anglais là, qui est très, très précis qui veut dire unwind. Tu sais, quand tu wind quelque chose, c'est quand tu rembobines de quoi. Ouais. Puis là, tu le lâches. Fait que la tension s'en va, tes pensées défilent, puis le but, c'est de les observer. C'est d'être un observateur de tes émotions, tes sentiments, puis tes pensées. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial.
Mais là, mettons, t'es parti from scratch?
Non, j'ai commencé avec le Insight Timer.
Fait que t'as fait des applications.
J'ai fait des méditations guidées, ouais, exactement. Celle que tu m'avais, ouais. Dont on n'a toujours pas trouvé le nom d'ailleurs.
Headspace, tu sais?
Headspace! Nick, la Headspace. Machine. Way to go, Nick. Merci, tu vois, Nick. Moi, j'ai mieux que Young Jamie de Rogan.
C'est ça, Nick. Il y a Nick. Pull that up, Nick. Puis, ouais, fait que Headspace. Puis là, ben, c'était des méditations guidées. Ça dure peut-être 15-20 minutes, ouais. Tout ça. Puis à un moment donné, je me suis comme tanné parce qu'il y avait des éléments. Moi, j'ai une drôle de bébite, là. Si le son de la voix n'est pas à une bonne hauteur ou si la prononciation est. Moi, écoute, c'est vraiment weird. La lumière chez nous, mettons, il faut qu'elle soit tamisée à un tel niveau parce que je. Sinon,
mais le pire, c'est que ça, c'est quelque chose de. Ça peut sembler genre, il est exigeant. Hein? L'ambiance d'une maison, c'est tellement important.
Oui, puis c'est toi qui décides, Daniel. Anyway,
oui, c'est ça.
Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Parce que la lumière est à mon goût?
Yo, son ambiance, c'est vraiment extraordinaire. Ça me dérange.
Voilà. C'est ça. Mais c'est ça, on dirait qu'avec les années, tu sais, tu me demandes si. Si je me sens obligé, des fois oui, parce que c'est des décisions d'affaires, tu sais. Dire aux gens, OK, je ferai plus de photos, parce que sinon, je me fais demander souvent, est-ce que tu fais des portraits, veux-tu faire mon mariage? Je me fais demander à tous les jours. J'ai au moins 4 à 5 demandes. Je pourrais faire juste ça de ma vie, faire des sous, puis être content. Mais on dirait que j'ai fait le tour.
Ouais.
Je suis comme, ah, mais j'ai fait le tour. Puis là, je vois les photographes qui rise up, qui sont, on a tellement de talent au Québec. Puis oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes. Oui, presque tout le monde est photographe. Tant mieux. C'est le fun, faire de la photo. Moi, je suis pas contre ça, puis je suis comme, à un moment donné, mais là, en ce moment, ce que je dis aux gens, c'est que, je roule sur les fumes de ma visibilité. Tu sais, 3 fois par jour, nous amener beaucoup de visibilité. Après ça, de moins en moins. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est que la fondation roule tout seul, que j'ai plus besoin de me montrer la face à TV pour le faire rouler. Tu sais, tant mieux si ça aide, mais je pense pas que j'ai le même pouvoir, mettons, que Marie-Lou. Tu comprends qu'il est encore au top pas mal parce que 3 fois par jour, ça va super bien. Il y a je sais plus combien de millions de personnes par mois qui vont sur le site. Fait qu'elle reste dans l'air du temps. Moi, si je peux m'effacer tranquillement, fade out, avoir ma petite vie tranquille avec mon.
Tu penses-tu?
Ben, c'est ça que j'aimerais.
Puis, penses-tu, puis tu voudrais plus être dans l'œil public?
Je serais dans l'œil public pour les bonnes raisons, en fait. Je serais pas dans l'œil public pour, mettons, animer un talk show ou whatever. Puis, encore une fois, tu sais, je dis pas ça contre les gens qui font ça dans la vie. C'est un métier que j'aurais voulu faire. Puis, j'ai passé un peu à côté parce que j'avais pas la discipline de travail pour en arriver là. Puis, je suis pas fâché.
Tu veux plus faire ça?
Pas vraiment, non. Non, mais si je peux. Peut-être. La seule chose que je me verrais faire, c'est un one-man show. Puis là, tu vas dire, c'est un peu weird parce que c'est comme.
Non, la dernière fois, je t'ai dit, fais-en.
J'aimerais ça, je pense. Fais-en. Comme à 50 ans, genre.
Non, la dernière fois, je t'ai dit, si tu veux qu'il soit bon à 50 ans, il faut que tu commences là.
Mais j'ai déjà commencé.
Oui?
Ah oui, j'ai des lignes, j'ai des punches, mais tu sais, ça va être quoi dans.
Moi, ce que j'aime.
35, là, ça aussi, va être quoi dans 15 ans?
Tantôt, tu parlais aussi des photographes, puis. je te dis pas que j'ai jamais été là-dedans, tu sais, mais. Je trouve que, mettons, un photographe qui a peut-être fait une école ou whatever, qui va être en colère parce que toi, mettons, t'es arrivé un peu de nulle part puis ça marche, je trouve que ça révèle beaucoup plus sur lui que sur toi.
Ben oui.
Puis de faire, de quoi t'as peur? Qu'est-ce que cette personne-là t'enlève? Puis c'est la même chose, je trouve, en humour, quand... Là, c'est plus ça, vraiment, je pense, là, tu sais, mais quand il y avait des comédiens ou des comédiennes qui faisaient des one-man shows pis ça... Des fois, word on the street, c'était un peu comme, hey, voyons, tu sais, nanana, pour qui, tu sais. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui t'enlève? Faut qu'on s'enlève l'idée de la tête que, tu sais, souvent, c'est une tarte qu'on se sépare. Non. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, moi, mettons, là, si quelqu'un est venu voir mon spectacle puis qu'il a aimé ça, en sortant, moi, ce que j'aimais le plus, c'est que beaucoup de gens, des ados, mettons, j'étais leur premier show d'humour à vie. C'est arrivé.
C'est hot, ça.
Ben oui, c'est fucking nice. Puis après ça, ben, on prend une photo, puis on jase un peu, puis c'est le fun. Puis eux, ils sortent là, puis c'est comme, je pense qu'ils ont passé une belle soirée, du moins, je l'espère. C'est quoi le feeling? Mettons que t'as passé une belle soirée, c'est comme, Chris, man, faut qu'on refasse ça plus souvent.
Ouais.
Ça m'a coûté 30$, mon billet.
Ouais, ouais, Chris, c'est...
Ben là, qui vient le mois prochain? Asti Kat Levac. On va aller voir Kat Levac.
Ouais.
Puis là, ben, Fait que c'est pas vrai qu'on se divise une tarte. Tu sais, on se la partage. Puis si 4 sont chauds, c'est un succès, ça aide à mon succès, puis mon succès aide à ton succès, puis vice-versa. Puis je pense qu'en photo, c'est la même chose.
Mais il y a bien des affaires dans tout ça, tu sais. Moi, ce que je trouve dommage d'entrée de jeu, c'est que moi, je sais qu'il y a des groupes de photographes qui me bitchent à cause que je donne des cours de photos avec un téléphone cellulaire. Tu sais, si tu regardes les tendances du marché, en 98, on a vendu autant de caméras qu'en 2018, des caméras numériques, OK? La vente de caméras numériques est à la baisse parce que c'est compliqué. Il y a des piles, des cartes, des fils. Tu mets ça en l'ordi, il faut que tu retouches. Que sur ton téléphone, c'est instantané. Si ton but, c'est de faire de la photo, pourquoi tu te gears de 7, 8, 10 000 piastres de stock alors que tu peux le faire avec ton téléphone? Puis j'ai eu un commentaire hier sur une photo de cellulaire, un gars qui dit « Ouais, je trouve que le piqué sur telle photo... » Puis son commentaire était extrêmement bon. Il était techniquement correct. Je lui ai dit « Écoute, tu regardes une photo prise avec un téléphone cellulaire compressé à 20 %. Il reste 20 % de la qualité sur Facebook à travers ton écran qui n'est pas calibré comme le mien. » Fait qu'il y a tellement d'intermédiaires avant que tu arrives à une bonne qualité que c'est sûr que là, sur l'écran, ça n'a pas tant de bon sens. Mais si tu sais que 97 % des gens n'impriment pas les photos qu'ils prennent, puis que c'est juste des supports numériques pour les regarder, ben t'as plus besoin de gear comme ça. Puis les compagnies de caméras le savent. Puis moi, j'ai perdu un partenariat avec une compagnie de photos à cause de ça, parce que j'avais pas peur de le dire. Puis les groupes de photographes qui me bitchent, comme quelle conversation on n'est pas en train de créer présentement?
Ouais.
Ça fait combien de dollars que tu dépenses sur du stock overpriced qui est pas nécessaire à cause d'une campagne marketing qui a bien fonctionné? On va parler des vraies affaires. T'sais. Moi, je sais c'est quoi l'overhead sur une caméra, la marge de profit, combien ça coûte, la recherche et développement. Je sais qu'il y a des caméras que j'achète plus parce qu'ils mettent ben trop d'argent dans la R&D puis dans le marketing. Puis je sais que je paye pour ça puis ça ne me tente pas. Moi, je veux juste avoir de la lumière sur un capteur. Et je dis ça, moi, j'achète des Leica qui sont ben trop overpriced, mais comme je suis en amour avec le brand. Fait que je l'ai acheté pour ça, mais je le sais. Tu comprends? J'ai payé ben trop cher ma caméra. J'aurais pu payer le tiers du prix pour la même qualité. J'aurais pu m'acheter une Sony qui vaut vraiment moins cher, qui ont le meilleur fichier numérique du marché, puis j'aurais eu quelque chose de vraiment mieux. Tu sais, j'aurais eu un petit peu plus de range dynamique pour faire des retouches. That's it. Mais j'ai payé trois fois le prix parce que je voulais cet appareil-là, le design et compagnie.
Mais il y a quelque chose aussi de t'enlèves rien à personne.
Ben, aussi, à ce niveau-là, c'est touché parce que le marché est très petit, OK? Je te parle au niveau culturel, tu sais, à un moment donné, s'il y a 250 humoristes, ben tu peux juste en avoir 5 dans l'année, ça va prendre du temps avant que tu reviennes au début, tu comprends? Fait il y a une question de marché. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que, par exemple, pour la photo ou pour les choses qu'on peut promouvoir sur les réseaux sociaux, les algorithmes présents, parce que nous, quand on a starté trois fois par jour, Facebook et Instagram, la machine que c'était, c'est vraiment plus que c'est aujourd'hui.
Mais non, c'est fou.
Faire ce qu'on a fait avec trois fois par jour en 2013, aujourd'hui, impossible. Ouais. Si t'es pas dans la névrose constante, puis que tu dors pas, puis que tu fais des compromis sur tes valeurs pour y arriver. Ou que t'as pas une mise de fonds à mettre de je sais plus combien, parce que, écoute, faut que tu payes de la pub.
Moi, je l'ai vu aussi, l'algorithme a changé. Moi, tu sais, c'est quand j'étais à OD Bali, mettons, que mes réseaux sociaux ont particulièrement explosé. Puis à cette époque-là, l'algorithme n'était pas ce qui est aujourd'hui. Fait que je mettais une story pour mes shows, puis je remplissais un lion d'or. C'est comme c'était, là.
Ouais, c'est ça,
mais parce que tout mon following...
En quelle année, ça, au
début? Ça, c'est 2017.
Ouais, c'est ça. T'sais, ça fait juste trois ans.
Fin 2017. Puis c'était, là... Puis mettons, 2016-2017, là, j'utilisais encore beaucoup Facebook, Instagram pour remplir le peu de salles que je faisais à l'époque, mais quand même. Puis ça se remplissait super bien parce que mon following voyait ce que je postais. Puis janvier 2018... Mm-hmm. L'algorithme a changé. J'ai vu là, la couper au couteau, man, du jour au lendemain.
Bah ouais.
Je l'ai vu.
Puis probablement aussi que tu perds du monde en ce moment dans ton following.
Ben oui.
Parce que les gens font, tu sais, c'est rendu quasiment des choix politiques, là. Qu'est-ce que tu choisis de suivre? Puis des fois, il y a du monde, je suis comme, man, y es-tu encore en vie? Puis là, je vais voir sur Instagram, je suis comme, ben oui, il poste à tous les jours, je vois rien. C'est des bons chums, tu sais. C'est du monde que je suis, dont le contenu m'intéresse, puis je vois absolument rien. Puis c'est. C'est très, très difficile. Par exemple, je prends un jeune entrepreneur qui veut se démarrer en photo, qui habite... c'est sûr que si t'habites sur l'île de Montréal, bonne fucking chance, mon gars ou ma fille, parce que c'est très tough, tu sais. Le marché est sursaturé, puis il y a du talent partout, puis la technologie a évolué, puis bon, un paquet d'affaires comme ça, les prix du marché ont tellement descendu. Moi, les dernières gigs de photos pour lesquelles j'étais engagé, je refusais parce que ça avait pas de bon sens. Je pouvais même pas avoir un assistant. Puis j'étais comme, mais c'est juste la moindre des choses. Puis c'est comme, t'as comme deux niveaux. Tu sais, j'ai mon ami Richard Bernardin. Je connais aussi Max Abadian. Ces gars-là, ils shootent en malade. Ils font des gros covers de magazines. Shane Laverdière aussi, qui travaille beaucoup en Europe. Tu sais, c'est des gros gars, là, tu sais, de photos. Ces gars-là peuvent en vivre vraiment, vraiment bien. Mais après ça, en dessous, t'as l'intermédiaire. Puis l'entrée de gamme, si on veut, ça, c'est juste que c'est des gens qui ont moins d'expérience, mettons. C'est pas payant, là. Fait que, qu'est-ce que t'as à faire? Ben, faut que tu travailles trois fois plus fort. Il faut que tu dormes moins que les autres. Puis c'est ça, l'affaire, c'est que la compétition, en ce moment, elle devient malsaine parce que les outils pour se forger une visibilité sont malsains à la base. Ils travaillent sur l'exploitation, la captation d'attention des gens, ce genre d'affaires-là. Je pense que c'est possible de renverser la vapeur. Je pense qu'il y a personne qui a vu ça comme ça ou qui a programmé ça pour ça, mais c'est la conséquence directe d'une action puis d'un choix. Fait qu'à cette heure qu'on le sait, il faudrait changer les choses. T'as sûrement vu The Social Dilemma?
Ouais, je l'ai vu cette semaine.
Ouais, c'est... Je suis très mitigé là,
sur ce documentaire sur Netflix qui parle des réseaux sociaux, ouais, là, pour les gens qui l'ont pas vu.
On va dire un éditorial, parce que un documentaire, je me serais attendu à plus d'objectivité là.
Ben en même temps, je veux dire, la plupart des documentaires, tu choisis un angle, tu sais, dans le sens c'est tout le temps un peu ça.
Ouais.
Je trouve après ça, mettons. Ben toi, comment t'as trouvé ça?
J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça important et pertinent que le message soit passé, qu'il y a des... que même si tu veux parvenir à un contrôle total de ton être, il y a des mécanismes qui vont travailler dans le sens contraire de ce que tu veux faire. Puis il y a une phrase très, 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 très importante dans le documentaire qui dit « Si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. » Fait qu'on est le produit. Donc, ce que ça veut dire, si on lit entre les lignes, c'est que on a le contrôle sur notre utilisation et l'environnement numérique va dépendre de la manière dont on va agir avec. Fait que ça fait des années qu'on exploite les faiblesses psychologiques des gens, fait qu'on veut garder leur attention. L'exemple que je donne dans le manifeste de la Fondation, c'est Netflix vient pas chez vous pour t'obliger à continuer à regarder des épisodes, mais tous les mécanismes en place dans l'application, le design, la manière dont c'est fait, le user experience, c'est fait pour te garder là. Fait que même si t'as une bonne discipline, c'est facile de give in. T'sais, c'est vraiment facile de... Ah, un autre, tu sais. C'est là que ta responsabilité embarque. Mm-hmm. Tu comprends? Puis le but de la Fondation, c'est ça. C'est de prendre le pouvoir là-dessus en passant par l'intelligence émotionnelle, donc la reconnaissance de ses émotions, la connaissance de soi. Puis comme je dis tout le temps, je l'ai mis sur pied parce que je pense que je suis la personne qui en a le plus besoin. Je suis pas en train de dire hey, « moi, je sais comment faire ».
Non, c'est ça.
Je suis en train de dire comme « j'ai besoin d'aide ».
C'est ça.
C'est vraiment un cri à l'aide, c'est un appel au secours, parce que on pourra pas faire ça en petit groupe. Puis c'est pas de gauche ou de droite. Que tu sois de gauche ou de droite, tu sais, manifestement, t'as remarqué que les discours politiques sont extrêmement polarisés. Les recommandations sur YouTube n'ont pas de bon sens. J'ai un gars sur Twitter que je suis qui a commencé à regarder des vidéos sur les nouvelles, tout ça, puis il se faisait que suggérer des trucs de théorie du complot. Sans arrêt. Puis parce que ces gens le payent, parce que ces gens-là sont très, très regardés, puis dans un podcast qui est vraiment intéressant, tu prendras ça en note, Your Undivided Attention, qui a été fondé par Tristan Harris, qui est dans le documentaire The Social Dilemma, celui qui travaille chez Google, Chief of Persuasion, qui fait le chef de la persuasion. Fait que lui, il a co-inventé le Infinite Scroll, entre autres.
Fait que, c'est fucked up.
Hein? Non, mais il s'est dit, hey, c'est fantastique, parce qu'on garde les gens 400% plus longtemps. Puis il a fait, oh fuck, on garde les gens 400% plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis après ça,
c'est ça qui me faisait rire dans le documentaire, en plus, c'est que... puis dans le sens, c'est bien correct, mais ils ont inventé... Ils ont nourri la bête, t'sais, ils ont inventé la bête.
T'sais. Moi, ce qui me dérange, c'est que t'as plusieurs gars multimillionnaires à cause de ces mécanismes-là qui ont eu un éclair de génie et qui, là, veulent se déculper. C'est correct parce que j'ai déjà fait la même affaire, tu comprends? Mm-hmm. Puis j'ai rien contre ça. À un moment donné, si tu te rends compte de quelque chose, ben là, tu décides, est-ce que tu continues d'être en tabarnak contre la personne ou tu as la discussion puis tu veux que la personne change?
Ouais.
C'est un peu ma façon de voir aussi le mouvement des dénonciations. C'est comme, à partir du moment où les gens prennent connaissance de ça, c'est quoi le next step? C'est quoi les actions? Puis j'ai trouvé ce mouvement-là extraordinaire parce qu'il y avait tellement d'outils là-dedans pour des personnes qui étaient soit victimes, soit agresseurs. J'ai trouvé ça le fun. Puis je vois un peu la même affaire avec ça. Sauf que Tristan Harris charge 100 000 US pour une conférence. Tu comprends? Fait que je me dis, le savoir que tu as est tellement important. Pourquoi le monétiser de cette manière-là? De la même façon que tu as monétisé l'attention des gens à travers les mécanismes. OK. Ensuite de ça, Jonathan Haidt, qui est un psychologue social, qui est aussi au podcast de Joe Rogan, t'as les trois fois, qui a sorti un livre qui s'appelle The Coddling of the American Mind sur la manière qu'on a d'élever nos enfants maintenant sans obstacle. Ce qui fait en sorte que, je fais une histoire courte, quand tu nais, t'as deux systèmes qui sont pas complets dans ton corps. T'as ton système immunitaire et t'as ton esprit. Fait que ton esprit va se développer au fur et à mesure que tu vas avoir des épreuves, des trucs à traverser. Puis ton système immunitaire, c'est la même chose. Quand tu le mets sous tension, il va réagir, il va construire ses défenses. C'est un peu la même chose avec l'esprit. Fait qu'il parlait des campus américains, des fois, qui vont mettre des profs à la porte parce qu'ils vont juste essayer d'objecter la conscience des étudiants en disant « Ouais, mais Donald Trump, il y a telle affaire qu'il a bien faite. Oh my God, là, ça devient comme l'enfer. Puis si c'est une université de droite ou de gauche, mais dépendamment de ce que tu dis, tu peux te faire mettre dehors. » Puis Jonathan Hyde, c'est celui dans le film qui arrive puis qui dit « On remarque, avec la montée en flèche de la popularité des réseaux sociaux, l'augmentation du double du taux du pourcentage de taux de suicide chez les jeunes filles de 11 à 14 ans. » L'erreur là-dedans, puis j'ai trouvé ça un peu poussé, c'est qu'il y a une différence entre corrélation et causalité. Corrélation, c'est... et puis il y a un site qui s'appelle Fake Correlations, où est-ce qu'ils établissent un lien entre le nombre de noyades aux États-Unis puis le nombre de films de Nicolas Cage qui sortent par année. Puis le graphique est exactement le même. Fait que ça veut dire que chaque fois que Nicolas Cage sort un film, il y a du monde qui se noie. Alors que ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est une corrélation. Causalité, c'est si t'es capable de prouver que quand Nicolas Cage sort des films, le monde se noie pour vrai. Là, ce qu'on a, c'est deux graphiques, un par-dessus l'autre, puis on fait comme, c'est à cause de ça. Le problème, c'est que c'est... Je pense que c'est en partie à cause de ça. Je pense qu'il y a un rôle à jouer, que les médias sociaux ont un rôle à jouer sur l'impact sur la santé mentale des jeunes filles de 11 à 14 ans. Mais je pense que c'est pas tout. Je pense qu'il y a le rôle des parents. Je pense qu'il y a le rôle des écoles. Je pense qu'il y a le rôle des gouvernements, le rôle des plateformes, le rôle des programmeurs. Le rôle du groupe, la société, tu comprends, on a comme un contrat les uns avec les autres. Puis c'est en réalisant qu'on est tellement individualiste sur ces plateformes-là qui ne servent pas nécessairement à écouter, mais beaucoup à parler. Mm-hmm. C'est là qu'on réalise que, oh shit, on commence à avoir besoin des autres. Parce que si t'as un groupe de 10 personnes, puis il y en a 8 qui l'utilisent comme des cabochons, ben les deux autres payent pour. Puis en ce moment, c'est ça. Mais c'est un petit groupe de personnes qui l'utilisent pas nécessairement bien, puis on se laisse emporter parce que c'est facile, on check des affaires, on like, on sait plus trop où donner de la tête. Puis nous, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir. C'est dire aux gens, prenez ce qui vous revient maintenant en sachant comment ça fonctionne. Puis ce qu'on a, c'est des discussions sur le sujet, on a des experts qui viennent, on a des comités aviseurs, on a des top chercheurs et scientifiques avec la Fondation. On a vraiment du fun.
Mais c'est quand même... puis, tu sais, mettons, dans le documentaire, il parle, mettons, des jeunes filles de 11 à 14 ans, il parle des jeunes garçons aussi, mais j'observe tout le monde. Un adulte éduqué, avec de l'expérience, peut devenir addict à ces affaires-là. Puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que quelqu'un nous dise que c'est une addiction comme une autre.
Oui.
Puis... J'aime que ce soit dit, puis j'espère que les gens le voient parce que faut pas banaliser ça.
Mais faut pas non plus diaboliser ces plateformes-là.
Non, c'est ça, mais il y en demeure pas moins que moi, mettons, puis aussi je suis dans une réflexion par rapport à ces affaires-là qui... Puis c'est facile.
À quoi tu réfléchis?
Ben, c'est que moi, mettons, tu sais, je sais pas, il y a une affaire... Puis c'est facile de dire ça, mettons, je dis niveau auquel j'en suis, c'est-à-dire j'ai beaucoup de following. C'est facile de dire que t'as plus besoin de ça la journée où tu y as goûté.
Ouais,
tu comprends?
Ouais, ouais.
C'est super facile. Ouais, c'est super facile de dire à quelqu'un qui veut faire l'école de l'humour, « Ah, t'as pas besoin de faire ça, fais juste jouer dans les bars. » Parce que je l'ai fait. Who knows où je suis rendu, je l'avais pas fait. Yep, t'sais, fait que, mais il y a quand même... Le fait que ça c'est devenu tellement... Il y a tellement de monde qui sont mis à me suivre à un moment donné que naturellement, j'ai un peu figé puis faire comme... Je me suis arrêté à un chiffre à un moment donné puis c'était comme... C'est du monde, tu sais, comme c'est du monde. Là. Puis faire comme... OK, attends, là. Pourquoi je poste ça? Mm-hmm. C'est quoi l'idée? Est-ce que c'est nécessaire? Mais il a fallu que je prenne des vacances puis que je m'éloigne pour penser à ça. C'est quoi mon lien à cette affaire-là, tu sais? Puis, à un moment donné, j'ai pris la décision que ça devenait un outil de travail seulement. Puis, après ça, aussi, j'ai découvert ce lieu-ci, qui est le podcast. Puis de faire, ici, pour moi, ça, c'est un safe space. Puis ouais. Pour moi, ça, cette conversation-là est vraie. Mais en même temps, faut peut-être qu'elle soit fucking numérisée pour qu'on s'assoie, puis qu'on lâche nos téléphones, puis qu'on se regarde les yeux, puis qu'on s'écoute, tu sais.
Ouais.
Mais en même temps, c'est une conversation qui est tellement nice. Il y a du monde qui sont dans la conversation avec nous en ce moment, tu sais, qui nous écoutent, puis qui en parlent avec leurs amis, puis qui sont pas d'accord ou qui sont d'accord. Puis on chemine tout là-dedans, tu sais. Puis il y a quelque chose de fucking vrai, puis humain, oui. Parce qu'on est deux humains qui s'assoyons l'un en avant de l'autre, puis il y a un autre humain qui l'écoute, puis il en parle à un autre humain, puis là, c'est une chaîne humaine qui est géniale. T'sais.
Oui, puis des fois, je me souviens après, je reçois encore des messages du premier podcast qu'on a fait. Les gens sont comme, waouh, je te découvre, t'es vraiment une bonne personne. Puis je suis comme, tu sais, j'ai mon lot, j'ai mon paquet de shit aussi que je traîne.
Mm-hmm.
Puis ce que t'entends de ce que je dis, c'est que je l'ai entendu ailleurs. Là. J'ai rien inventé en ce moment. Je repasse l'information, puis Dieu merci, j'ai une plateforme pour le faire. Tu sais, j'ai ce privilège-là, on a ce privilège-là tous les deux. Puis beaucoup de gens aussi, mais on essaie de s'en servir le plus possible. Je vais faire un parallèle parce que, bon, on parlait d'hélicoptère tantôt, tu sais. Souvent, on voit la vie comme une chose qui est linéaire, OK? On va faire un choix, la répercussion va être tellement longue qu'on va être capable de rester sur cette ligne-là tout le temps, puis ça va aller bien parce qu'on a fait un choix en fonction de nos valeurs, puis tout ça. Alors que vraiment, la vie, c'est de rechoisir. Moi, quand je vais au gym, je rechoisis chaque fucking matin d'aller au gym. Ça me tente pas tant que ça, là. Je pourrais rester chez nous, je serais bien, faire un petit café, regarder des nouvelles, commencer à écrire tranquillement, faire mes affaires. Je pourrais faire ça, mais je fais le choix à chaque matin. Puis, tu sais, en hélicoptère, quand on roule, on pense que tu pèses sur un piton, tu souples, tu tiens ton truc, puis c'est le même. Il faut constamment que tu ajustes parce que la vie t'envoie un peu de vent, une petite poche d'air, fait plus froid, plus chaud, t'es plus haut, faut que tu montes, faut que tu descendes. La vie, c'est ça. Il faut que tu acceptes que tu vas toujours devoir t'ajuster à la seconde, que ce soit dans ton travail, dans tes relations interpersonnelles, dans tes passions, dans les gens avec qui tu as des connexions. C'est ça, la vie.
Ouais.
Puis à un moment donné, le stress, le gros du stress, on parle des épreuves qui nous sont données puis des épreuves qu'on se crée. Puis c'est plus rare, les épreuves qui nous sont données. Je te parle de « je touche du bois, pogner le cancer », tu sais. En proportion, c'est quand même assez rare. Les chances sont minces que tu aies le cancer, mais les chances sont très élevées que tu te mettes dans la merde toi-même parce que tu n'as pas réfléchi à tes affaires, tu sais. Ça, c'est une épreuve que tu te crées parce que tu savais pas, parce que tu es inconscient, puis tout ça. Puis si tu acceptes que tu vas toujours devoir t'ajuster, à un moment donné, ça devient plus facile. C'est que tu acceptes plus facilement le fait que c'est tough. T'sais. C'est comme avoir un enfant. C'est comme avoir un enfant, c'est le fun d'avoir un enfant. C'est tough en crise avoir un enfant. C'est vraiment difficile. Puis moi, j'ai tellement d'empathie pour les mamans monoparentales qui en ont deux puis trois. Puis tu sais, c'est facile de dire, ouais, mais là, tu sais, tu pouvais te protéger. Comme, qu'est-ce que t'en sais? C'est pas important. On est là, là.
Mais puis pas juste ça aussi, c'est que des fois, il y a des commentaires qui aide en rien à la situation dans laquelle on est rendu. De dire ça à une mère monoparentale, ça l'aidera pas à mieux élever son enfant. C'est comme, je pense, elle sait en tabarnak. Mais là, elle aime un être humain qui est présent.
C'est ça.
Puis man, c'est juste ça qu'il faut qu'elle fasse.
Sa vie à cet être humain-là dépend de la maman.
Exact.
Puis moi, ce que j'essaie de travailler dernièrement, c'est mon réflexe d'empathie envers la personne que ce commentaire-là. C'est facile d'avoir de l'empathie envers une personne qui est victime des déboires de la vie. C'est très facile. Une personne itinérante, une personne d'une communauté marginalisée, c'est facile. Mais après ça, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui te rentre dedans, moi, c'est ça que j'essaie de développer parce que je me dis quelle conversation on est en train de rater. Ton senti, il est valide. Je comprends que je peux symboliser quelque chose pour toi, mais je pense que je suis un symbole. Fait que c'est quoi? De quoi on parle, man? On parle-tu du fait que j'ai déjà mis des photos de ma Tesla sur Instagram? Ou on parle de qu'est-ce que ça te fait de voir que quelqu'un a un niveau de vie différent du tien? Pourquoi ça? Tu sais, puis en même temps, est-ce que c'est bon que moi je fasse ça? Parce que c'est pas parce que cette personne-là me fait le commentaire puis qu'elle me rentre dedans qu'elle est nécessairement tort. C'est peut-être que le ton est pas le meilleur. Je suis peut-être pas réceptif. Comme par exemple, il y a je mets des logos de la fondation récemment. Puis il y a une fille qui dit « C'est vraiment beau, mais c'est pas tellement accessible. » Puis moi, ça fait depuis 2013 que je mange de la merde sur Internet pour des photos de lasagne puis des menaces de mort pour une vidéo que Marie-Lou elle se coupe un ananas le matin. Fait que je te dirais que ma patience, elle commence à rétrécir un peu, mais mon empathie grandit. Fait que, puis là, il y a quelqu'un qui dit ça. Fait que là, je pars à rire, je suis comme « Pardon, tu sais, de quoi pas accessible? Genre, t'as pas la clé de la palette de couleurs? » Puis je me mets comme... Je suis pas arrogant dans mon commentaire, mais moi, dans ma tête, chez nous, je commence à spinner, puis là, j'écris des commentaires, je l'efface. J'écris, puis je suis comme « Man, t'es vraiment dans un état de merde, t'es désagréable présentement. T'es vraiment pas vivable. »
Pourquoi tu réponds?
J'ai répondu parce que j'étais vraiment intrigué. C'est très, très rare que je réponde. Normalement, je bloque les commentaires puis je bannis le monde de mon compte. Je suis comme, check, m'a t'aidé, là. Ou des fois, quand j'étais un peu baveux, parce que moi, je suis vraiment arrogant, là, dans la vie. Tu sais, les gens sont comme, t'es vraiment gentil. Je peux être 5 fois plus arrogant que le maximum de gentillesse que j'ai dans moi. Merci à mon enfance violente. c'est un contexte. C'est pas, j'ai pas mangé des volets ou whatever. C'est juste un contexte à cause de mon tempérament. Mais bref, on en parlera une autre fois si tu veux. Quand
on peut en parler quand tu veux.
J'ai du temps.
Écoute.
Puis, pourquoi je disais ça déjà?
Les commentaires.
L'affaire qui est la plus arrogante. À un moment donné, il y avait un meme que j'ai vu sur la masculinité toxique. Puis c'est un clip de Marie-Lou qui dit « Ah, ben je me sentais un peu plus garçonne quand j'ai fait ça. » Puis il y a un gars qui l'a ramassé. Elle a dit « Wow, la sommité sur l'identité des genres. » Puis moi, je l'ai ramassé, man. J'ai écrit un hostie de long paragraphe. J'étais comme « Dude, tu sais, t'es qui pour juger? » Moi, je la connais, Marie-Lou, puis c'est mon ex. Puis après ça, le gars, il m'a répliqué en voulant dire comme « T'es vraiment possessif. C'est weird, mon gars. » Puis tout, je suis comme « Qu'est-ce qui est weird? Défendre ma meilleure amie puis la mère de mon enfant ou ne pas connaître une personne puis la ramasser publiquement avec un commentaire vraiment comme hautain sur ton ta supériorité morale. J'étais vraiment crinqué. Puis finalement, on a enlevé les commentaires, mais j'étais vraiment, vraiment pas content. Puis le plus baveux que je me permets quand quelqu'un vient écrire de quoi sur mes affaires, c'est comme si seulement on pouvait trouver une manière que t'aies pas accès à ce que je fais. Je m'excuse que tu sois encore là. Puis si jamais tu veux que je te rembourse, écris-moi un email.
Ça, mais mettons.
Sur 10 fois que je l'écris, je le laisse une fois, puis la personne efface son commentaire.
Mais tu vois, puis le pire, c'est que des gens qui commentent, t'es probablement la plus divertissante, là, mettons. mais moi, je réponds, puis je te dis pas que j'ai raison.
Mais je pense pas que j'ai raison non plus.
Mais c'est juste que moi, mettons, c'est peut-être parce que je suis trop sensible ou ça me rentre trop dedans ou je sais pas quoi, je lis rien. Parce que quand j'ai le malheur de lire, puis c'est le cliché, là, tu sais, il peut avoir 22, je lis fuck all.
Mm-hmm.
Sweet fuck all, parce que je me dis, si je me mets à répondre aux bons commentaires, faut aussi que j'écoute les mauvais.
Ouais.
Puis tout ça, tout le monde a raison, mais tout ça s'équilibre. Je sais pas, tu sais, j'en parlais avec Nick avant qu'on enregistre, tu sais, je m'écoute pas. Je réécoute pas mes affaires, puis je te dis pas que c'est la bonne affaire
plus,
à faire, mais il y a une affaire où je fais, hey, ben, je pense que je m'améliore humainement. Je pense que dans ma vie, je travaille sur des trucs, puis d'après moi, ça va paraître dans mon travail. Puis je ne pense pas que les réseaux sociaux sont un bon lieu de conversation. Tu l'as dit tantôt, c'est une
place.
C'est
pas une place pour, c'est une place pour parler.
Ben, c'est ça. Il y a pas d'écoute. Puis cette année, moi, ça a été ça que j'ai le plus remarqué. C'est la grande défaillance dans notre communication,
mm-hmm,
à tous les niveaux. Avec la police, avec la justice, avec les victimes, avec les agresseurs, avec les communautés marginalisées, avec la politique, dans nos couples, avec nos personnes âgées, avec nos name it. On communique tellement mal. Puis moi, le premier, mais on n'a pas d'écoute.
Non.
On n'a vraiment pas d'écoute. T'sais.
Mais en plus, c'est pire sur les réseaux sociaux parce que la personne qui va passer sur ta publication, qui va la commenter, elle va prendre un temps supplémentaire à toi. Ça peut te faire sentir comme quelqu'un de spécial, mais dis-toi que cette personne-là, bro, en l'espace d'une demi-heure, elle a vu à peu près 1500 pièces de contenu différentes.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, l'univers est infini et tu n'es pas spécial. Moi, c'est mon mantra, là. Je me répète ça à tous les matins. Tous les matins, je me répète la même affaire. C'est vraiment important. Puis c'est
mais
juste
tu te réponds
que...
ça, mais mettons, qu'est-ce qui fait que tu demeures jovial? Est-ce que c'est rassurant pour toi de te dire ça? Ou puis qu'est-ce qui fait que, tu sais, si mettons, ben, l'univers est grand puis t'es pas spécial, qu'est-ce qui fait que
t'essaies
de faire des affaires?
Ben, j'essaie d'avoir un impact. Je me dis, tant qu'à être là,
ouais,
tant qu'à le faire, il fallait bien, tu sais. Puis tantôt, je parlais d'arrogance, puis ça, ça fait partie de moi, tu sais. Puis je l'avais nommé dans une publication à un moment donné avant de me retirer pendant un bout des réseaux sociaux parce que avec Black Lives Matter, les dénonciations, tout ça, moi, ça m'a ramené dans des traumas, puis comme, je trouvais ça vraiment insupportable, là. Je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. J'ai été en contact avec des personnes autour de moi aussi qui trouvaient la même affaire, puis il y a beaucoup de gens qui ont pris des pauses des réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, c'était comme, puis c'était parfait, c'était le moment pour certaines personnes de ventiler, c'était des safe space pour eux, c'est correct, tu sais, puis tout ça,
mais même ça, mettons, là, tu sais, puis je trouve que les moves sont parfaits, puis tout ça, mais souvent, quand je vois des amis ou des gens faire, hey, je fais une pause des réseaux sociaux, puis ça, je fais, pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu m'annonces ta pause? Entends-la, puis t'en recevras pas, je sais pas, tout ça. Je me pose plein de questions par rapport à ça parce que je pense que le move est bon, mais on dirait que de l'annoncer, on dirait que tu dis bye sur le Titanic avec un truc et tout le monde est comme... T'es bon de faire ça! Puis je suis comme, je sais que c'est pas ça.
Ouais.
Puis des fois, je comprends l'idée de, ah ben tu sais, il y a des gens qui me suivent, fait que tu sais, techniquement, je dois les avertir d'un coup que nanana.
C'est un peu de tout, honnêtement. C'est fucké, tu sais, j'ai pas la science infuse, la vérité absolue. J'essaie d'y aller le plus possible selon mon système de valeurs, puis je me trompe, puis écoute.
Mais je te pointais pas du doigt,
non,
exactement.
Non, mais je prends mon exemple, parce que c'est celle que je connais. Je veux pas parler de celle des autres, parce que je suis pas là, mais c'est comme quand je fais des dons à des causes, puis j'en parle. Je le fais parce que j'ai une certaine influence sur des gens.
Ouais.
Fait que si je dis que je fais un move, je le fais, puis comme, il y a des gens qui embarquent.
Mais même ça, c'est ça qui me fait rire aussi, c'est que toi qui fais ça, tu peux recevoir de la critique. Loud qui fait ça, ou Laurent Duvernay-Tardif qui ferait ça. Là, c'est comme le regard est différent. Fait qu'il y a une, ils vont être applaudis. Tu comprends?
Mais moi, je m'en fous.
C'est la même affaire que tantôt, on parlait des photographes. Puis il y a un réalisateur qui s'est ramassé dans des grands festivals en faisant un film sur son iPhone. Puis là, les gens sont comme, ah, l'audace, non, 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 non. Je te dis pas qu'il n'y a pas reçu de critique, mais j'ai l'impression que les gens vont se permettre des commentaires sur, comme, je sais pas si c'est une hiérarchie dans leur tête ou je sais pas quoi, mais c'est juste que moi, je fais, ah, tout ça, il y a quelque chose de pas bien.
Mais je vais t'expliquer pourquoi, puis c'est le plus gros problème du film de Social Dilemma, c'est quand il pose la question au début, c'est quoi le problème? Puis tout le monde est comme, je vais te l'expliquer, c'est quoi le problème? Il y a un mot pour ça, puis c'est...
C'est vrai qu'il joue gros, hein?
Hey, je suis comme, les boys, asti, il est où le problème?
C'est quoi le problème?
Je vais juste vous demander d'aller sur votre application Desjardins, puis regarder combien vous avez dans votre compte, il est là le problème. Ça s'appelle le capitalisme, c'est que toutes les communications qu'on a, des communications que t'as avec des gens sur les réseaux sociaux, des communications avec des gens que t'as dans ta vie, tout est basé sur une structure économique. Il y a un gain à y avoir, que ce soit un gain en visibilité, en popularité, en influence, en argent, il y a un gain dans nos communications. Puis moi, j'ai commencé à faire le ménage dans les gens à qui je parle. J'ai enlevé les gens avec qui je considérais que je parlais parce qu'il y avait un gain. Que ce soit d'être associé à cette personne-là publiquement, que ce soit d'être...
Tu faisais ça? T'étais...
Tout le monde fait ça, donc. Ouais, Tout le monde fait ça. Mais il y a personne qui va venir me dire, non, moi, j'ai vraiment des relations saines avec. C'est sûr qu'il y a des gens. Moi, j'ai pas un très grand cercle social. J'ai 3 meilleurs amis, quelques connaissances. Je parle à vraiment beaucoup de monde parce que j'aime ça parler aux gens. J'aime ça écouter. J'aime ça échanger des affaires. J'aime ça comprendre pourquoi les gens sont comme ça, tu sais. Fait que je parle à vraiment, vraiment beaucoup de gens. Mais des amis, des vrais, des personnes sur qui je me fie pour me guider, j'ai compte ces doigts de ma main, là. Puis, c'est important, tu sais. Mm-hmm. Comme toi, ton cercle d'amis, tu sais, est plutôt petit, puis c'est vraiment important, tu sais. Y a des gens avec qui je m'entends super bien, on va souper tout ça, mais comme je sais que c'est pas mon core, puis ça va. Mais je sais aussi qu'il y avait des personnes, puis c'est même pas du monde connu, whatever. C'est des gens dans une certaine clique qui je sais, eux autres, s'ils donnent un good word sur moi dans cette clique là, ben je vais savoir que ces gens-là m'apprécient.
C'était-tu conscient ou inconscient?
C'était inconscient, mais à partir du moment où t'en es conscient, il faut que tu prennes action, t'as pas le choix.
Ouais.
Puis le gros problème, c'est ça, c'est que nos communications sont basées sur des modèles économiques. Et c'est ça que les plateformes ont compris, puis c'est ça que les plateformes mettent en jeu. C'est quoi les liens qu'on peut faire entre les gens qui vont nous rapporter le plus? Mmh. Et là, les gens se parlent pour cette raison-là. Fait qu'un influenceur avec un influenceur, puis juste, by the way, j'ai rien contre le terme influenceur, mais une personne qui veut gagner sa vie grâce à sa facilité à parler avec les gens, c'est comme faire de l'humour, mais il y a pas de joke tant que ça, puis il y a beaucoup, beaucoup de shampoing puis de produits de beauté. puis c'est pas, je dis pas ça pour leur peser sur la tête. C'est juste que moi, quand je me fais dire que je suis un influenceur, ça me fait un peu chier, tu sais.
Non, t'es un sosie d'M&M. C'est ça que t'es.
C'est ça que je suis.
Depuis tantôt, je m'en retiens de te le dire.
Pourquoi je suis un sosie d'M&M?
Tu ressembles à M&M, mais on dirait M&M en santé.
Ah ouais?
Ouais.
Mais c'est comme un compliment.
Non, mais tu sais, il porte beaucoup la casquette, la barbe, la même forme.
J'ai tout le temps une casquette.
Es-tu d'accord?
C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Normalement, les gens m'entendent, sont comme, t'as la même voix qu'Alex Barrette.
Ah oui!
Ma mère m'a déjà appelé un matin. Puis elle était comme, je suis content que t'applaudisses.
Non, mais depuis tantôt, t'as dit des choses, j'étais comme, oui!
Ouais, Alexandre Barrette.
Mais vous avez pas la même voix, mais vous avez.
La même façon de.
La musicalité un peu.
Puis ma mère, elle m'a appelé un matin, elle m'a dit, t'es à la radio? Je suis comme, non, maman, je suis comme hangover, puis ça fait des années de ça.
Ouais.
Je suis hangover, puis je suis dans mon lit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben non, mais il vient de dire Alexandre, puis c'était ta voix. Je suis comme, maman, c'est Alexandre Barrette. C'est ma mère!
Ah oui.
Puis là, je l'ai déshonoré. Puis elle a perdu tout l'héritage.
Peux-tu trouver une photo d'M&M, Nick, s'il te plaît? Je suis juste curieux de voir. Non, mais puis après ça, c'est que tantôt, je voulais tellement pas te couper la parole.
Tu étais juste tantôt, pensé à ça.
Puis moi, je suis là à dire, on n'a pas d'écoute.
On n'a pas d'écoute.
Asti d'hypocrite sage, t'es un truc de cul de merde, je me déteste.
Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment important qu'on le comprenne, c'est que tous nos comportements sont basés sur des structures économiques. Le gain, tu sais, le capitalisme, c'est pas juste acheter quelque chose, faire de l'argent, hein, c'est le gain que t'as. Le capitalisme, c'est prendre les intérêts, tu sais, quand les intérêts privés sont détenus par un petit groupe de gens, ou quand les intérêts sont, je me souviens pas de la définition exacte,
ouais.
Mais c'est pas juste l'argent qui rentre en ligne de compte dans le capitalisme. Le capital, c'est ce que t'as. Puis écoute, quand tu sais ça, je trouve que la vie change beaucoup. Tu sais, je dis pas que je suis arrivé à une illumination. Puis voilà, tu sais, moi, avec, j'ai mes problèmes, là, puis j'ai mes affaires. Mais
tu sais?
Ouais, c'est. Hey, my God.
On dirait vraiment que t'es en santé.
C'est vrai, lui, il a l'air moins en santé, mais il y a quoi, il y a 50 ans aussi,
ouais, ouais.
Pas loin. Hein?
Ouais. C'est vraiment juste à cause de la casquette et de la barbe, parce que sinon, vous ressemblez pas tant que ça.
Sa barbe est teinte.
C'est vrai?
Ben oui, c'est sûr que oui, man.
Ah oui, hein?
T'as pas un poil aussi soyeux.
Ouais.
Naturellement, là. Toi, tu t'es rasé en plus, j'ai remarqué ça.
Ouais, ouais, j'ai trimé la barbe. Puis toi, c'est Marcus weird, qui fait, hein, ma couleur.
Je sais, man.
Mon barbier, c'est Greg au Headquarters,
okay,
qui est dans le même building où t'étais avant.
Ouais.
Headquarters, lui est là.
OK, c'est ça.
Toi, t'es plus là.
Au Saint-Ambroise?
Ouais, t'es encore là? OK. Puis, il y a son propre barbershop avec son frère puis un autre de leurs amis. Les gars sont vraiment trop bons. Puis, c'est lui qui... C'est le best. Je suis pas capable d'aller voir quelqu'un d'autre.
Je pense que je vais aller le voir d'autre.
Je l'aime tellement. Puis, je suis allé faire mes ongles au manoir.
C'est ma couleur préférée, by the way, ça.
Ils sont sick, hein? C'est Émilie, la propriétaire du manoir. Yo, ouais, super cool. Genre, une belle équipe. Tout le monde est fin. Puis, elle m'a fait ma, genre, sont vraiment sick.
Moi, j'ai des amis qui m'ont posé des questions sur ton vernis.
Ah oui?
Ils m'ont dit, y es-tu au gars? Y es-tu homosexuel? J'étais comme, attends, je veux juste arrêter. Mon ami qui me demande la question, je suis comme, c'est quoi le lien entre avoir de la couleur sur tes doigts puis l'orientation sexuelle d'une personne? First, ça te regarde pas. Puis moi, que Jay soit à un, à l'autre, aux deux, à rien, je m'en fous. T'sais, puis c'est pas une affaire de je ne vois pas la couleur.
Non, non, non.
C'est comme, s'il y a un enjeu par rapport à ça, je vais être là, t'sais, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est une question que je me fais poser. Quand je me suis séparé de Marie-Lou, j'étais allé faire un trip en Californie avec mon meilleur ami, les gens pensaient qu'on sortait ensemble.
Ouais, ouais.
J'étais comme...
Mais il y a quelque chose, le pire, c'est que hier, j'en parlais avec Émilie, justement, au manoir, puis moi, mettons, depuis que moi, j'ai commencé à me faire les ongles, j'ai amené deux amis faire leur première manucure. C'est comme un nouveau cadeau que je peux offrir à des amis, faire comme, ah, tu veux... Chris, je te l'offre, man, viens avec moi, puis ça. Puis, et mes deux amis sont gays. Et je pense que moi, mettons, moi, je suis hétéro, puis j'ai jamais douté
ou quoi que ce soit.
Non, c'est ça. Puis j'ai pas peur, dans le sens, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, puis pour vrai, ça m'affecte pas. Mm-hmm. Mais peu importe ce que je dis dans cette conversation-là, j'ai l'air d'être sa défensive, tu comprends? fait que c'est pour ça que je l'évite, parce que je m'en fous.
C'était pas une manière de t'amener là, parce que je me souviens, c'est, comment il s'appelle déjà, celui qui fait, oh mon Dieu, celui qui fait Bane dans Batman. Comment il s'appelle?
Bane?
Dans
Batman? Bane, c'est lequel? Le double
gars avec le masque.
Le gars avec le masque. Ah, oui, Esti, c'est un tough, là.
Ouais, ouais, man!
On n'est pas bon avec les noms.
Il y a une voix vraiment spéciale.
Ah, il est sick, lui, en plus.
Ouais.
On le sait-tu? Nick est fort, Nick est là.
Pull that up, Nick.
Là, en ce moment, il y a des gens qui gueulent dans leur chambre.
Vous êtes
tellement
stupide!
On le sait!
Comment il s'appelle, déjà?
Tom Hardy?
Tom Hardy!
Voilà, le frère de Ed, les t-shirts.
Yo, et récemment, j'ai dit à mon meilleur chum, je suis comme, faut qu'on retrouve nos chandails Ed Hardy.
Oui, oui.
Je pense que je vais les ramener à la mode.
C'est sûr que oui. Toi, t'as le pouvoir de le faire en plus, man. S'il y a une personne qui peut le faire, c'est toi. Puis Tom Hardy est en entrevue à un moment donné. C'est un genre de... Comme à Cannes, les entrevues qu'il y a, t'as comme une salle remplie de journalistes. Il y a un gars qui travaille pour un magazine queer, je pense, puis il dit, ton personnage, c'est quoi son orientation sexuelle? Puis toi, c'est quoi ton orientation sexuelle? Puis il est comme, pourquoi?
Mm-hmm.
Puis là, il est comme, next question. Puis il passe à un autre, tu sais. Puis j'ai trouvé ça, c'est sûr que c'est un peu arrogant comme approche, mais je me dis en même temps, c'est la vie privée de quelqu'un. Puis je pense que, puis là, écoute, je parle en dos de blanc, cis, hétéro et compagnie privilégiée. Tu sais, je veux pas m'approprier une cause, mais.
En plus, t'as des amis qui ont des hélicoptères, là, tu sais, comme t'es à un autre niveau de privilégié, man.
Tabassé, là. Puis c'est correct en même temps parce qu'il faut le reconnaître, tu sais. Puis je trouve ça important qu'on se le fasse dire parce que c'est tellement facile d'être confortable là-dedans,
ouais,
que si personne socialement objecte ta conscience, autant les gens plus extrêmes que ceux qui le sont moins, je pense que c'est vraiment important. Fait que si je dis quelque chose qui est pas approprié, dites-moi le. Mais cancellez-moi pas, là. c'est pas une peur que j'ai, mais je me dis.
Mais pour te canceller, on fait quoi? On enlève ton téléphone cellulaire?
Ouais, c'est ça. Là, non. Là, Alexandre, pour le prochain mois.
C'est terminé.
Réfléchis. Fait que non, mais.
Mon esprit, puis pense.
C'est pense. Vas-y, médite avec ton.
Je veux qu'on revienne à ça, d'ailleurs, avec ton flip phone, avec le mot.
On fait le signe, tout le monde. On fait le signe. On va le mettre à l'audio. Fait que je sais pas pourquoi on disait
ça. La conversation. Tom Hardy, les ongles.
Tom Hardy, puis j'avais trouvé ça bien que ce soit banal, tu sais, parce que ce qu'on souhaite idéalement, c'est que ce soit banal, c'est que quand il y a une personne trans ou une personne du, je vais essayer de le dire au complet, LGBTQ
plus,
mais il y a un i à un moment donné, me semble, là-dedans.
Okay.
Puis j'ai appris c'était quoi la bispiritualité. Puis j'ai appris un paquet d'affaires grâce à un compte Instagram, mesdames, messieurs, qui s'appelle le Club Sexu.
Mais oui!
Extraordinaire.
Mais oui,
moi, le Club Sexu, c'est les cours de sexualité que j'aurais aimé avoir quand j'étais au secondaire.
Man, j'ai reçu Estelle Cazelet sur le podcast.
C'est vrai?
Qui est une sexologue.
Ah oh, oui, mais elle a un autre truc.
Elle a un autre truc. Réfléchir à ça, ça, c'est le A, c'est les ateliers sexuels.
Ouais.
Puis, mais je pense qu'elle a fait des trucs avec la gang de Club Sexu, si je ne m'abuse. Mais parce qu'en tout cas, la gang du Club Sexu m'avait parlé de mon podcast avec Estelle. Puis ceux qui l'ont pas écouté, Estelle Cazelet, ça a été un podcast vraiment génial sur la sexualité.
Mais man, sais-tu à quel point on est dans une société qui prend pas soin de ses jeunes quand c'est des designers de l'UQAM qui ont la meilleure présence avec les autres pages qui font ça sur un média numérique au niveau de la sexualité pour les jeunes? Je me dis comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur apprend?
Ouais.
C'est quoi le cadre scolaire? Tu sais, c'est que... Moi, ça me fait réaliser que j'étais super bon à l'école, mais j'étais pas dans un cadre qui me convenait pantoute.
Ouais.
Puis j'aurais aimé ça, apprendre ça. Le consentement. Le consentement, j'ai appris ça quand j'avais comme 31 ans. Mais pas que je respectais pas le conseil. Je veux dire, c'était naturellement, je respectais le côté, tu veux pas, on le fait pas. Puis c'est, ouais. Pour moi, c'était sûr et certain. Mais la notion du consentement, là, comme en profondeur, là, tu sais, si t'as un nom de pas, parce que moi, c'était ça la game quand t'étais au secondaire avancé. C'était les filles faisaient hard to get, puis les gars essayaient de les charmer. Fait que c'était à quel point tu peux être gentil pour avoir ce que tu veux. Puis c'était ça dans la musique, c'était ça dans les filles. American Pie, dude, c'est-tu assez problématique comme film? C'est des gars qui se font un pack de fourrés avant de finir le secondaire.
Ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, c'est...
C'est ça le film?
Ouais.
Fait, non, mais... Puis c'était... Ah, il fourre une tarte aux pommes.
Ouais.
Tu sais, mais comme, c'est tellement toxique.
C'est ça, tu sais, mais j'aime bien aussi, tu sais, j'aime où on est rendu dans la conversation, qui fait en sorte que je fais, tu sais, American Pie, dans le contexte, à l'époque, c'était peut-être ça, c'était probablement pas correct. Mais ça se ferait pas aujourd'hui, puis c'est ça qui est bien, je trouve, tu sais.
Oui.
La même affaire, mes ongles, moi, il y a une affaire, je pense que... Puis que les gens se posent la question, j'ai une amie, mettons, qui me posait tellement... Elle revenait tellement là-dessus. « Ah non, il y a beaucoup de gens qui me demandent si t'es gay, tu sais. » Ah, OK, tu sais, whatever. Moi, je répondais pas, mais j'étais comme, ah, tu sais, je veux pas avoir l'air de justifier, tu sais. Puis ma mère, toute la veillée, elle revenait là-dessus. Non, mais tu sais, puis je dis, moi, je leur disais, tu sais, je sais pas, mais tu sais, ce serait correct, tu sais, j'étais comme, tu penses-tu que je suis gay, tu sais, comme, ouais, mais dans le sens, c'est peut-être, à toi de me le dire, puis j'étais juste comme, ben, si j'étais gay, je te le dirais en esti, mettons, je pense que tu me connais bien, là, je pense que je l'assumerais. Non, mais dans le sens, je disais, si t'as déjà essayé, tu sais, comme, si j'avais essayé, je te l'aurais dit aussi. Tu sais, comme, non, mais dans le sens, puis elle me croyait pas, mais j'étais comme,
ouais.
C'est quoi cette conversation? C'est quoi ça, là? C'est quoi tout ça? Puis je me posais la question. Moi, je pense que la raison aussi, pour laquelle, mettons, mes amis, puis là, je leur porte des intentions, puis c'est peut-être crissement pas ça. Mes amis qui font partie de la communauté LGBTQ+, ont peut-être pas voulu se faire les ongles parce qu'ils voulaient pas se faire juger par leur propre communauté. T'sais, ou par des proches, ou faire déjà que le coming out ou assumer qu'il est homosexuel, c'était déjà une affaire. Là, c'est en plus, tu mets les ongles, c'est comme, mais là, à quoi tu joues? Moi, je me suis jamais posé cette question-là parce que ça faisait pas partie de ma vie.
Mm-hmm.
Moi, j'étais comme, bon, j'ai commencé à faire ça, puis j'aime ça. Puis là, mes amis sont comme, crème, moi aussi, ça me tente. Non, non. Puis, mais il y a quelque chose, encore une fois, dans la conversation, je parlais avec un ami qui fait partie de la communauté LGBTQ+ récemment, puis j'étais comme... Souvent, j'ai demandé à mes amis, genre, c'était comment ton coming out? T'sais, parce que je trouve que ça...
Pour faire le tien, parce que tu te...
Pour faire le mien.
Ça n'a pas de bon sens. Moi, le pire, c'est pas les gens qui me posent la question, c'est les gens qui font comme, ouais, mais Jay, on le sait, là. Je suis comme... De quoi on le sait? Est-ce qu'il te l'a confié? Non? Ta gueule! C'est, pour moi, c'est
mais
ça.
Mais au-delà de ça, moi, je me demande à quel point... Parce que là, autant j'ai souvent demandé cette question, comment s'est passé ton coming out, dans l'idée d'être empathique, puis aussi de mieux apprendre à connaître la personne, puis faire c'est quoi ton schéma familial ou amical, comprendre comment ça s'est passé, tout ça, parce que aussi, ça t'a sûrement aidé à t'assumer ou peu importe. Puis à un moment donné, j'ai comme poussé ma réflexion pour faire... Et si... Peut-être que le coming out est vraiment... Puis là, encore une fois... Je parle de quelque chose qui, je dis,
mais évidemment, on n'est pas des personnes.
C'est qui ça. Sont concernées. Mais j'étais comme, probablement que ça aide à assumer quelque chose ou à affirmer quelque chose, mais je me disais, et si, mettons, on rêve à un monde idéal, une utopie où les gens sont ouverts et qui fait en sorte que plus personne n'a affaire de coming out.
Ben oui.
De juste, puis les gens, des fois, c'est juste une idée. Je fais, c'est quoi l'idée quand tu poses la question? C'est que c'est une curiosité malsaine qui sert à rien, juste à faire OK, ben là je suis assis avec Alex, ben là, il est gay, pour que moi dans ma petite tête je puisse mettre l'étiquette OK, lui il est photographe, il a tant d'argent, il c'est ça, ça pour me faire un schéma dans ma tête, alors que je peux juste m'asseoir, t'écouter, avoir une conversation puis ressentir l'énergie.
C'est exactement ce que je disais, c'est la différence entre une structure économique puis une connexion réelle. La structure économique, c'est le gain de connaissances, le gain de détails pour quand tu vas dire ça à une personne, oh my god, elle va capoter, t'as un gain parce que tu te sens intéressant pour une fraction de seconde. C'est exactement ça que les médias sociaux reproduisent à une échelle qui a pas de bon sens, avec un computing power qui est 400 quadrilliards de fois plus fort qu'il y a 30 ans.
C'est terrifiant.
Fait que c'est un vice, c'est un angle mort qu'on a, c'est une faiblesse psychologique qui est exploitée, mon gars, à des niveaux qui ont aucun bon sens. Alors que la réelle connexion, elle se passe dans le truc qu'on a. Je viens pas te parler ici pour avoir de la visibilité ou whatever. Je viens te parler parce que t'es mon chum, puis j'aime ça te parler, puis je trouve ça le fun. On pourrait avoir la même discussion, toi puis moi, au resto, jusque là, on l'enregistre. Ouais. Tant mieux si ça a des répercussions positives sur les personnes. Mais je veux dire, c'est pas le but ultime. Tu comprends? Ouais. On se dit pas ça parce que, je veux dire, ça serait prétentieux de dire, ben nous autres, quand on se parle, on change le monde.
Non, c'est ça.
Si tu peux faire naître une flamme chez quelqu'un, tant mieux.
Mais après ça aussi, il y a une affaire de, tu sais, moi, c'est le genre de conversation, tu sais, je vais dire ça quand moi, mon père, on prend un café, puis on parle, puis on réinvente le monde, on refait le monde, tu sais, puis... Mais c'est notre monde. Puis après ça, cette conversation-là, moi, m'habite pendant des semaines, puis mes réflexions continuent puis de grandir, puis de s'approfondir, puis ma curiosité grandit. Puis fait, moi, j'en retire un énorme bénéfice humain.
Ben oui, pis, c'est juste que c'est pas payant. C'est ce qui est le plus gratifiant pour l'humain, c'est de sentir que t'as une connexion. Moi, ça arrive des fois que je vais rencontrer des gens dans une place ou quand je voyage, tout ça. Puis tu sais, c'est quoi un frisson de malaise? Tu sais, mettons, quelqu'un vient te parler, ben là, ça existe plus, là, parce que c'est une époque qui révolue, mais quelqu'un vient te parler dans un bar, ben, ben proche, un gars, mettons, puis là, tu sens son souffle chaud dans ta nuque, puis t'es comme, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça parce que j'aime ça, la sensation est agréable, mais j'aime pas ça que ce soit toi, parce que je te connais pas, puis tu sens fort. Mais j'ai comme l'inverse des fois. Mettons, j'ai une soirée avec une personne, c'est arrivé quelques fois que j'ai eu des dates qui se transformaient en amitié, puis je trouvais ça extraordinaire. J'étais tellement satisfait que j'arrivais dans mon char, j'avais comme une décharge. Un genre de...
J'ai pas osé rien dire, mais j'ai aimé que tu... Une tu le mentionnes toi-même.
OK, va couper ça. Là, je l'assume à 100%. Non, mais j'ai comme une genre de... J'ai comme un frisson qui me parcourt le corps de comme... C'était
vrai.
Il y avait quelque chose là-dedans qui... Puis je me sens comme mal, on dirait. Je sais pas, c'est weird comme sentiment. C'est vraiment weird comme sentiment. Parce que je me dis, oh mon Dieu. C'est comme si je réalise que... C'est pas toutes mes conversations puis mes rencontres qui sont comme ça, tu sais. J'ai commencé très jeune en humour. Je suis rentré à l'école, j'avais 18 ans. C'était ben trop jeune. Vraiment, vraiment trop jeune. Je peux même pas croire qu'on a des permis de conduire à 16 ans.
Tu sais, moi, j'ai rentré à 19, puis il y a quelque chose de... Des fois aussi, j'aime... J'en ai parlé, j'ai reçu mes amis la fin de semaine passée, Guillaume puis Dave Bocage, puis on parlait de vieillir, tu sais. Puis bon, j'ai eu 29 ans, c'est pas vieux, tu sais. Fait qu'à chaque fois que je dis que j'aime vieillir, tout le monde me dit « ta gueule, t'es un kid, hein? » Mais il y a ça, je trouve, de faire, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est facile de dire « c'était trop jeune, hein? » Mais en même temps, t'es rentré à 18, t'es sorti à 20, puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, t'es rendu où t'es rendu. Si tu l'avais fait à 25, tu l'aurais peut-être pas fait, t'aurais peut-être été ailleurs. Pis ça, c'est ça qui est sick, je trouve, de « Ah, trop jeune, trop vieux. » Peut-être, mais c'est ça ton cheminement. Puis c'est ce qui a fait que t'as probablement grandi puis appris. Puis il a fallu que tu fasses ça à ce moment-là pour devenir ce que t'es aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, j'aime cette idée-là. Tu sais, comme j'ai des amis des fois qui commencent l'humour plus tard, pis ils sont « Ah, Chris, toi, t'as commencé jeune, t'as tellement perdu du temps. » Je suis comme « D'où t'as fait comme... » T'as été en couple 12 ans.
C'est ça, t'as une voyagé, vie aussi à raconter, ben oui.
Si t'as eu telle affaire, t'as étudié tel truc, t'as une maîtrise, t'as une fuck, tu me niaises.
Ouais.
T'as eu comme une autre carrière. T'as un bagage que j'aurais jamais. Je suis sorti de l'école de l'humour, j'avais 21 ans. La seule affaire que je pouvais parler, c'était de CrossFit puis de frisbee ultime. Comme, tu me comprends? J'ai rien à dire. J'ai rien
C'est exactement le même feeling que j'avais. J'avais rien à dire. Rien à dire. Puis on avait des discussions des fois à l'école sur la pertinence d'un humoriste, puis le pouvoir, tu sais, puis la responsabilité, tout ça. Moi, j'étais comme, ouais, mais là, on peut-tu juste être drôle, tu sais? Puis tout le monde était comme, ben oui, c'est beau, on peut être drôle, tu sais. En voulant dire, comme, t'es comme un enfant, dans le fond. Puis oui, j'étais un enfant à 18 ans, là. C'est pas vieux, 18 ans, mon gars.
Non, c'est fou.
C'est à 35 ans que je le réalise, mais.
Mais c'est fucking jeune.
Aïe, 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 16 ans, un permis de conduire. Moi, je me donnerais pas un permis de conduire quand j'avais 16 ans. Mais je l'ai eu, fait que, qu'est-ce que tu veux? Ouais.
J'aimerais ça qu'on parle de deux affaires parce qu'on a ouvert une porte, mais je veux assurément qu'on parle de ta fondation avant qu'on se quitte. Mais j'aimerais ça que tu, parce qu'on a commencé puis on est parti sur mille autres affaires, mais quand t'es parti 10 jours en Estrie pour comme faire un genre de bootcamp humain de ta personne, de toi tout seul avec ton flip phone.
Flip phone, signe.
Plus on fait le move, plus on dirait qu'il est petit.
Il rapetisse. C'est un mini cellulaire. La technologie est tellement le fun.
Mais mettons, tu t'en vas en Estrie tout seul dans le bois 10 jours. Tu mets ton cadran à 5 heures du matin?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que
tu suis Jocko Willink sur les réseaux sociaux.
4h28, mon gars. Je vais faire des squats.
Go get some! Go get some!
Stay hard! Puis David Goggins.
Yo, lui, il est fucked up.
Non, mais c'est de la névrose. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est qu'il est comme... Non, mais dis-moi, c'est de même que je vis ma vie. Tu sais, dude, c'est correct. C'est ça pour toi. Mais c'est de la névrose. Parce que c'est pas ça, la vie. C'est pas vrai que c'est ça, la vie.
C'est qu'en plus, autant qu'il peut... inspirer ben du monde à faire belles affaires, que c'est tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas David Goggins, c'est un ancien militaire américain qui était relativement gros. Puis là, il y a genre le record du monde pour le plus de pull-up en 24 heures. Là. Genre, c'est un ultra, tu sais, ouais. Il est vraiment space. Mais c'est l'hostilité. Ouais, avec laquelle ça. Il offre son inspiration qui, moi, m'agresse.
C'est
« Yo, bitches! Fuck you! Do shit! Fuck them! » Genre, l'autre fois, tu sais, il fait toujours ses vidéos en courant.
Ouais.
Puis l'autre fois, il est comme « Yo, you know what? » Puis ça, le pire, c'est que j'ai regardé ça puis je suis comme « C'est pas un bon conseil à donner à des gens. »
Non.
Mais il était comme « Yo, some people are gonna tell you you're shit. They're gonna put you down and one day you're gonna work so hard and you're gonna be in a position of success towards them and then they're gonna reach out to you and gonna be able to say you know what fuck you. »
Puis t'es comme, c'est comme non,
ok, fait que dans le fond tu dis aux gens vengez-vous,
c'est ça,
voyons calice.
Oh,
tu
je me souviens très bien, tu l'imites tellement parfaitement bien, je prendrais une heure juste de ça. David Goggins avec son chest, man, il est tellement à cote, c'est hallucinant. Mais c'est ça, c'est que ça pour moi c'est des, faut que t'en prennes puis que t'en laisses. T'sais, faut que tu fasses la part des choses à ce moment-là. Fait que quand t'arrives avec un esprit un peu brisé, t'as besoin de conseils, t'as soif, t'sais, tu peux tomber là-dedans facilement. Puis c'est pas mieux qu'une affaire de théorie du complot parce que tu vas te pousser à des limites qui t'appartiennent pas. T'sais.
Mais c'est que moi, mettons, cette vidéo-là en particulier, j'étais comme... Il y a une amie, je pense que c'est une collègue d'OD qui me parlait de ça récemment. Elle travaillait dans une crèmerie quand elle était kid.
Mm.
Puis leur boss disait, peu importe comment ça a été avec le client, le prochain, c'est comme...
C'est un nouveau.
C'est un nouveau. Qui fait en sorte que... Puis j'étais comme, ça a l'air de... Mais quel bon enseignement que ce patron-là de crèmerie, qui peut, ça peut sembler bien inoffensif ou petit, entre guillemets, comme business, mais c'est une fucking business. Genre, puis quel bel enseignement qu'il a offert à aux gens qui travaillaient pour lui, parce que c'est ça la vie, man. Mm-hmm. Fait que si t'as un client qui te donne de la merde, c'est de la fucking merde. Puis c'est tough, toi, d'être the bigger person, faire « OK, là, il est parti, c'était fucking chiant, la prochaine personne a pas besoin de recevoir cette négativité-là. » C'est chiant.
Ouais, c'est difficile.
C'est fucking difficile de toi faire ce chemin-là. Mais mettons que lui, il part, puis il t'a mis en tabarnak, puis là, toi, t'es le prochain client, puis moi, je fais comme « Bon, qu'est-ce que tu veux, puis whatever. » Puis là, toi, t'es en colère, parce que là, moi, je suis devenu ce gars-là dans ta vie à toi.
Ouais.
Puis là, mais toi, de l'autre, puis là, on part une chaîne de merde, alors que l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui est fucking smart avec toi, quelqu'un qui te laisse passer là, sur un stop, moi,
ça
m'en
auto, moi.
Oui!
Le plus que je peux, je suis vraiment courtois, mais si je me fais couper, mon gars, je peux aller dans des niveaux en tabarnak qui sont assez élevés.
Mais puis on est tellement niaiseux.
Oui.
Mais c'est super dur parce que c'est un réflexe humain. Ça monte, tu sais.
Mais tu t'en laisses passer 28 sur la route avant, le monde te laisse passer, tout va bien. Tu plais un gars qui se coupe comme tabarnak! Puis t'as envie de déshonorer sa famille pour les 7 générations qui suivent, mais comme c'est ça, c'est mon plus gros struggle, c'est développer mon réflexe d'empathie.
Mais c'est parce que tu le dis, c'est un réflexe,
ouais,
que tu veux le développer, tu veux avoir ce réflexe-là.
Oui.
C'est tellement dur se détacher de la réaction des gens. Fait que quelqu'un qui te lance de la haine, le réflexe humain, c'est la défense.
C'est ça.
Hey, je vais aller... Puis c'est fucking tough de contrôler ce réflexe-là, faire « Attends, là, qu'est-ce que la personne m'envoie pourquoi elle m'envoie ça? Tu sais, c'est tough de faire ça, mais oui. C'est que tu peux tellement, genre, c'est quétaine, là, mais, tu sais, genre, j'étais en Afrique du Sud, j'ai beaucoup entendu parler de l'histoire de Nelson Mandela, puis tu lis le livre de Trevor Noah, puis tu lis tous les apprentissages que Nelson Mandela a donné à une société entière, puis c'est grandiose. C'est grandiose. Il a sauvé des... C'est grandiose ce qu'il a fait, tu sais, fait que... C'est la même affaire que Goggins quand il dit genre « Ouais, un jour, toi, t'es un employé, puis l'autre, t'es employeur, puis il te fait chier, mais à un moment donné, tu vas tellement travailler fort que tu vas devenir son employeur à lui, puis lui, il va « reach out ». Man, la journée, il va « reach out », si tu fais ce que lui t'a fait, t'as rien appris.
Non, puis c'est ce que Gandhi disait, tu sais, « If an eye for an eye, the world will go blind ». If an eye for an eye, tu sais, l'expression ouais. « œil pour œil », là.
Ouais.
Si c'est œil pour œil, ben à un moment donné tout le monde va être aveugle.
Ouais.
Parce qu'on a tous quelque chose à se reprocher, puis comme ça fonctionne dans les deux sens, dans le sens
ouais.
où on est tous très intrinsèquement liés. Tu sais, même s'il y a des gens avec qui t'as pas de d'affinité au niveau politique ou whatever, on n'a pas le choix de collaborer. On n'a pas le choix. Fait que c'est pour ça que moi, les défenseurs des libertés et droits individuels, c'est comme un peu des enfants pour moi. Tu sais, on en a des droits individuels, puis c'est important qu'on ait des libertés, ça c'est sûr et certain. Mais quand ces libertés-là agressent le bien commun, je suis absolument pas d'accord. Tu sais, je suis comme ben, à un moment donné, il va falloir que tu acceptes qu'il y a d'autres personnes sur la planète, puis que t'es pas le nombril du monde. Tu sais, c'est puis c'est drôle parce que dans les années précédentes, il y a de ça plusieurs siècles, les gens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre. Fait qu'on pensait qu'on était le centre de l'univers parce qu'on était ignorant. Fait que j'ai un peu, puis c'est pas fin, puis je vais me faire varger dedans, mais c'est pas grave, j'ai déjà reçu des menaces de mort à cause des photos de la zinc. Fait que I can take it.
Mais je pense que les gens qui écoutent le podcast sont fins. Moi, j'ai
ben, tant mieux, puis en même temps, si quelqu'un va avoir une discussion posée à ce sujet-là, moi, je suis très, très ouvert, tu sais, c'est quoi l'importance des droits et libertés individuelles, mais c'est parce qu'à un moment donné, le bien commun a primauté, selon moi, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis plus je m'efface dans ma vie de situations où c'est moi le boss ou whatever, mieux je suis. Plus je sais que je participe à un effort de groupe, un effort concerté, plus je suis heureux. Tu sais, je suis content de mettre mon masque, parce que je sais qu'il y a 0,0001% de chance que ça résulte en une mort plus loin.
Ouais.
Mais au moins, je suis à 0,0000.
Mais il y a aussi l'idée, j'aime beaucoup... les gens que j'admire le plus, c'est beaucoup des leaders silencieux qui parlent beaucoup plus par leur action que par leur parole. Puis là, on est beaucoup dans cette ère-là de inspirer. Tout le monde veut inspirer.
Tellement inspirant.
Ah ouais, tu sais, c'est comme la suite de l'influence, là. Tu sais, c'est comme, ah, je veux inspirer les gens à être mieux. Puis je trouve que ultimement, c'est bien. Il y a quelque chose de bien dans l'idée de. Mais après ça, il y a quelque chose de super égocentrique. Puis tu veux inspirer ou tu veux que les gens te disent que t'es inspirant. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je sais pas à quel point, puis là, je suis pas en train de dire que c'est ce que tu viens de me dire, mais il y a beaucoup de gens, je trouve, j'ai entendu ça beaucoup récemment. Moi, ce que je veux, c'est inspirer. Bon, puis ça, je fais... Les vraies personnes... Je pense pas que Gandhi dit « Je veux inspirer le monde. » Tu sais, comme, il fait des shit, puis le monde est inspiré. Tu sais, comme... Fait que je trouve que on est plus en contrôle. Ça revient à ce que tu disais de... Si t'incarnes ce que tu prônes, tu vas inspirer le monde. Comme...
Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense pas que je suis cet exemple-là, mais je pense que toi, t'es cet exemple-là. Puis je me rapporte à quand je mets des vidéos de moi qui bench puis qui rate toutes mes levées parce que c'est trop lourd puis je trouve ça drôle de faire l'inverse de ce que le monde met sur Internet. T'sais, ils mettent ils sont vraiment forts, ils sont vraiment bons. Moi, j'aime ça mettre des moments que je fais. Moi, je sais combien tu bench. Tu me l'as dit, je ne vais pas le révéler. Je vais te laisser ça à toi. Je le sais. Puis,
tu vois, avec cette phrase-là, genre, j'ai jamais sonné aussi douche.
Non, mais
j'adore qu'on ait eu cette conversation.
Il y a toute une profondeur. Il y a toute une profondeur à ce que tu fais, Jay, dans la vie. Puis je te connais assez bien pour savoir que, tu sais, je sais que tu t'entraînes vraiment beaucoup. Puis tu mets beaucoup d'efforts là-dedans. Mais t'en parles zéro. Puis ça paraît pas. Puis il y a pas, tu sais, tu le montres pas. Puis tout ça. Puis moi, je trouve que c'est un excellent exemple. Puis j'aspire un peu à ça. Mais en même temps, je trouve ça le fun des fois de me voir m'entraîner parce que, tu sais, je suis diabétique. Hein? Puis quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis fait dire, eh, écoute, tu vas prendre du poids. Puis ton espérance de vie, puis j'étais comme, je pense pas, non. Puis écoute, je me gère tellement bien, mon endocrinologue m'envoie des courriels pour me dire, comme, pour vrai, t'es-tu correct, man, parce que t'es vraiment en bas.
Connais-tu Sébastien Sasseville?
Oui, c'est pas lui qui était allé vraiment loin à pied.
Lui, il a traversé le Canada à
la
course.
Ouais, c'est ça.
Lui, la même affaire que toi, je pense, quand il avait 21 ou 22 ans, il s'est fait diagnostiquer, il a son diagnostic de diabétique, puis de type
1. Probablement, ouais.
Et la même affaire que toi, s'est fait dire, hey man, tu peux, toi, le sport, mettons, il va falloir que tu mettes une croix là-dessus. Puis lui, il a fait l'inverse. Il a fait quoi? Fuck that. Il a monté l'Everest en 2007 ou 2008.
Ah ouais?
Il a été
jusqu'au sommet.
Jusqu'au fucking sommet, mon gars.
Wow.
Je sais, je veux pas m'avancer, mais tu sais, mettons, dans le monde diabétique, là, c'est une crise de sommité, mettons, là.
Ben non, mais c'est
clair.
C'est
une hostie de légende. Il a fait des ultra-marathons, des Ironman plusieurs fois. Puis quand il a traversé le Canada, dans le fond, un de mes très bons amis, Patrick Saint-Martin, qui est un des réalisateurs de chez Cozy,
okay.
qui a bien des clips humoristiques qui sont faits par Cozy, ben Pat, c'est sa boîte. C'est un de mes très, très bons amis. Puis Pat était comme son coordonnateur. Fait que Pat, traverser le Canada en suivant Seb Sasseville qui courait, tu sais.
Oh, ouais,
moi, j'ai couru avec eux quand ils passaient à Montréal.
Ah ouais?
Ouais. C'est malade, man. Ce gars-là est sick.
Mais c'est un même exploit. Toi. C'est un exploit parce que c'est très difficile, la condition diabétique, parce que c'est plein d'affaires.
Tu l'as su quand?
Moi, j'avais... Ça va faire 6 ans. Je l'ai su en 2014, octobre 2014. Voyons, j'avais 29 ans.
Comment? Qu'est-ce qui a fait que t'es
ouf, j'ai perdu 25 livres en un mois, je mangeais comme une vidange, j'allais pisser 15-20 fois par jour, je buvais 7-8 litres d'eau.
T'es-tu devenu diabétique ou tu l'as toujours été et tu savais pas?
Dans mon cas, c'est un mélange, c'est très très spécial ce que j'ai comme. Je peux pas rien faire comme les autres, là. Fait que moi, c'est le type 1.5 dans le fond, c'est que j'ai des signes dans mes prises de sang puis dans mes anticorps du type 1, mais j'ai aussi une espèce de trouble métabolique comme le type 2. Je produis encore assez d'insuline pour me faire survivre plus longtemps qu'une personne qui est juste de type 1, mais si j'arrête l'insuline demain matin, 2 semaines, je peux crever là, comme ça. Fait que je m'injecte de l'insuline, puis écoute, je suis encore en apprentissage. Ça fait un an que je suis à l'insuline. Puis moi, il y a des sports, il y a des façons de faire du sport que j'ai peur de faire parce que j'ai peur de dropper beaucoup.
Mmh.
Puis c'est quand même assez dangereux. En fait, ce qui est dangereux, c'est à long terme, c'est d'être en hyper, donc avoir des taux de glycémie sanguine qui sont taux sanguin, en tout cas, la glycémie élevée. Avoir un taux de sucre très élevé à long terme, c'est pas bon. Puis avoir un taux de sucre très bas à court terme, c'est vraiment pas bon.
Qu'est-ce qui fait que ton taux de sucre bouge?
Comment je m'alimente.
C'est ça. Fait que si tu fais du sport, ton taux de sucre baisse.
Ben, ça va dépendre. Parce que dans le fond, quand tu fais du sport, ton corps sécrète d'autres hormones qui vont inhiber l'action de l'insuline. Ça veut dire qu'ils vont couper ce que l'insuline va faire. Parce que quand tu fais du sport, ton foie pousse du glucose dans ton corps pour nourrir tes muscles puis être plus performant. Le problème, c'est que l'insuline va prendre ce glucose-là puis va le métaboliser, va le transformer en énergie. Puis dès que l'énergie est brûlée, tu en as besoin d'autres. Ton cerveau, tes organes fonctionnent avec de l'énergie qui est le glucose sanguin. Puis toi, ce que tu veux, c'est toujours être en équilibre. Fait que quand ton pancréas fonctionne bien, tu as 2 hormones qui peuvent réguler ça. Tu as le glucagon qui va inhiber à 100% l'action de l'insuline, puis tu as l'insuline. Fait que l'insuline va métaboliser. Le glucagon va arrêter l'effet de l'insuline. Fait que si toi, puis moi, mettons, on décide qu'on s'en va courir 100 km, puis moi, je suis à l'insuline. Moi, il faut que je me pique moins parce que je sais que j'en manque. Tandis que toi, ton corps va compenser. Je veux l'expliquer pour que les gens comprennent bien. C'est que mon endurance n'est pas pareille. Vu que j'ai de l'insuline dans mon corps, ça se peut qu'à un moment donné, j'aille trop d'insuline pour le glucose que j'ai. Puis vu que mon pancréas fonctionne pas bien, mais la sécrétion de glucagon, elle se fera peut-être pas nécessairement bien, puis les hormones sont tout fuckées.
Okay.
Parce que toi, ça va bien. Fait que toi, t'es géré automatiquement. Moi, je dois gérer manuellement ça.
Okay.
Fait qu'au bout de 100 km, ça se peut que moi, je crash, mais que toi, tu crashes pas.
Okay.
Si toi, tu crashes, c'est pour des raisons différentes que moi. Fait que, bref, tout ça pour te dire que, je sais pas si tu te souviens du jeu, c'était comme une genre de pipe, puis t'avais une espèce de bille dessus, puis fallait que tu souffles juste pour qu'elle reste en équilibre comme ça.
Ouais.
Ben, sa glycémie dans les bons ranges, c'est ça. 100% du temps, sans arrêt. Une personne diabétique va avoir ça constamment dans sa tête.
Mmh.
Puis moi, j'ai déjà un trouble du déficit de l'attention. Fait que j'ai ça en plus. À gérer là, ça va bien parce que j'ai un capteur sur le bras. Je sais pas si
mais
le
oui!
Bras. J'ai un capteur sur le bras qui va prendre 300 glycémies par jour. Je scanne avec mon téléphone, je sais où est-ce que je suis rendu.
Ah!
J'ai des insulines intelligentes aussi qui vont faire un job extraordinaire. T'sais, je pense à l'époque de mon grand-père où est-ce que pour avoir sa glycémie, il fallait qu'il pisse sur une bandelette, puis là, ça changeait de couleur.
Ouais.
Mais quand t'es rendu à avoir assez de sucre dans ta pisse pour que ça change de couleur, c'est parce que t'es vraiment haut.
Ah, c'est ça.
Fait que c'est vraiment, vraiment pas bon. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux le
mais
savoir
ça, c'est
quand même.
Mais c'est-tu rentré dans ton corps?
Ouais.
Fait que ça, c'est petite pique le matin.
Non, ça, c'est une fois par 2 semaines.
Ah, tu laisses ça là?
Oui, 2 semaines de temps, je mets ça. Il y a une aiguille qui rentre avec une sonde, puis la sonde va dans ton liquide interstitiel.
Hein?
Puis le liquide interstitiel a le même taux de glycémie que ton sang, mais avec un lag d'à peu près 15 à 20 minutes environ. Fait que je peux le savoir un petit peu plus tard. Mais ce qui est le fun, c'est que ça me donne des tendances. Fait que ça me dit si je suis en train de monter vraiment vite ou en train de descendre vraiment vite. Fait que je peux prendre des décisions éclairées. quand t'es au contrôle de ma glycémie.
Y a-tu des notifications, genre?
Je peux en avoir si je veux.
Ouais. Non.
Mais je me connais tellement bien que je sais exactement. Après des années, tu sais, année, tu.
Ton énergie, puis ça, tu le sais.
Mon énergie, comment je me sens. Je sais que quand je suis très, très haut, je commence à. Facilement, je suis pas patient. Ouais. Puis je sens que j'ai du feu dans le corps, là. C'est vraiment pas le fun. Quand je suis très, très haut, là.
Qu'est-ce que tu fais pour baisser?
Je me pique à l'insuline. Ou sinon, je vais courir. Mais en même temps, c'est ça que je
voulais dire. L'insuline, ça fait dropper.
Exactement.
Le sucre dans le sang.
Ouais, mais dans le fond, okay. Tu manges. OK, tu as un bol alimentaire. Dans le fond, la bouchée que tu manges, elle arrive dans ton estomac. Puis après ça, dans ton estomac, elle est digérée. Ça va dans ton intestin pour prendre les nutriments. À partir de ce moment-là, ton corps sécrète de l'insuline. L'insuline va métaboliser ce que tu as mangé. Donc, peu importe si des protéines, des glucides, whatever, en glucose. Tout se transforme en sucre, finalement. Fait que tu manges du sucre naturel ou de la cassonade ou du sucre raffiné, c'est du fucking sucre. Fait que là, moi, je suis comme un peu tanné d'entendre ces affaires. Ah, ce sucre-là, il est vraiment meilleur. Non, vraiment pas. C'est du sucre pareil. Ça, c'est ça que ça fait. T'sais, s'il est raffiné, il va faire un plus gros spike dans ton sang, mais il est pas moins bon, il est juste, il agit différemment dans ton...
Le sucre, c'est fucked up, c'est pas bon. Ça se peut-tu?
Ben, c'est l'équilibre qui compte,
ouais, c'est
pas grave, là.
Ouais.
Je veux dire, ça dépend c'est quoi ton but, tu sais. Faut jamais que la perte de poids soit un but, honnêtement. Je pense que c'est très important de savoir ça, parce qu'il y a tellement des façons drastiques de perdre du poids qui sont extrêmement dangereuses pour le métabolisme, puis qui peuvent créer d'autres problèmes après. Je pense que tu veux être en forme, tu veux être en santé, tu veux avoir de l'énergie, avoir une présence.
L'énergie, c'est vraiment quelque chose de... Je voulais t'en parler de ça aussi. Toi, tu bois plus depuis combien de temps?
6 ans et demi.
6 ans et demi.
Ouais. Aucune goutte, là. Genre, même pas. Mais je sens les vins. Ça, j'aime ça, sentir le vin. Je trouve ça.
Est-ce que c'est dur? Le plus dur, j'imagine, ça a été le premier 6 mois, genre.
Même pas, man. J'étais comme si j'étais rendu là.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait? On en a-tu parlé la dernière fois? Qu'est-ce qui a fait que t'as fait fuck that, Jared?
Marie, puis moi, juste avant qu'on se fiance. On a dit, ce serait fun d'arrêter de boire parce qu'on trouvait des fois que c'était facile d'entrer en contact intime quand on était chaud d'air. Parce que, au début de notre relation, c'était difficile parce qu'on arrivait de deux univers complètement différents, puis on avait chacun nos issues, puis tout. Puis on trouvait ça trop facile de s'appuyer sur l'alcool pour comme lubrifiant social. Là, j'ai fini ma phrase ce coup-là.
Ouais.
Pas comme tantôt avec la décharge. pour les gens qui nous écoutent. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter de boire par principe. Puis moi, l'alcool a fait des dommages dans ma famille aussi. Fait que c'était au nom des gens qui ont souffert de ça. Ça me tentait d'arrêter. Je voulais me positionner comme un peu un phare pour les gens qui boivent trop, qui ont des problèmes d'alcool.
T'avais-tu déjà fait un mois sans alcool, mettons?
Non, jamais.
T'avais même pas testé?
Mais je buvais pas tant. Mais quand je buvais, c'était pour me torcher la face là, à côté. Je pouvais pas boire un peu, whatever. Puis je préférais la personne que j'étais en état d'ébriété. Donc, en état d'ébriété, pas d'inhibition, j'avais un meilleur jugement, j'étais pas anxieux, j'étais vraiment peaceful avec tout le monde, j'écoutais, j'étais calme, tandis que quand j'étais pas chaud ou raide, je me supportais pas. Là,
c'est quand même rare, en plus, qu'on...
Moi, j'étais un happy drinker, mais tu sais, l'alcool, c'est un dépresseur.
Ouais.
Moi, j'étais hyper, fait que ça me ramenait un peu sur le plancher des vaches, si on veut.
OK.
Puis, j'ai été vraiment chanceux parce que j'avais déjà des signes du diabète dans mon système. Ça aurait pu être très dangereux parce que l'alcool, c'est un hypoglycémiant, donc ça peut t'amener sous le taux normal de glycémie. Puis quand tu tombes là, mais ton cerveau manque de gaz, manque de glucose, puis tes organes aussi, fait que tu peux tomber dans le coma, faire de l'épilepsie, c'est vraiment pas nice. Puis ça peut avoir des séquelles permanentes sur ton corps. Fait que... j'ai été vraiment, vraiment chanceux de faire attention. Fait que, tu sais, hangover, là, c'est vraiment important de s'hydrater comme il faut, de manger, de s'assurer qu'on a une réserve de glucose pour, comme...
passer au travers la journée.
Pour passer au travers le hangover. Tu sais, une personne en santé, c'est pas grave, mais, tu sais, juste au cas, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que je préférais la personne que j'étais quand j'étais en état d'ébriété, puis après ça, j'ai arrêté. Puis honnêtement, ça a été comme...
La dernière soirée, là, quand t'as fait un essai de main.
Ouais.
Comment tu t'es préparé à arrêter de boire? Genre,
j'ai juste arrêté.
Fait que t'étais pas prévu, genre.
Il y a pas de rituel, il y a pas eu de cérémonie. C'était juste comme, bon, mais OK. Puis là, je dis au monde, je bois pas. Puis t'es comme, ah ouais, ça fait-tu longtemps? Ouais. Je donnais pas d'informations parce que c'est pas une discussion que je veux avoir. Parce que c'est pas une discussion qui est agréable à avoir avec personne. Parce que dès que tu rentres dans la discussion de « Ouais, mais moi, je bois parce que c'est parce que tu sais que la personne a un problème d'alcool. Je le sais, les gens, comment ils me parlent. Il y a des gens qui sont curieux, ils me posent des questions, c'est agréable. Mais dès que ça devient désagréable, je sais.
Mais dès que les gens se justifient eux et qu'ils remettent ça à eux.
Tu peux boire, man. Moi, je suis pas ton père, là.
T'es pas dans le jugement parce que.
Zéro. Moi, des fois, je vais souper avec des amis, whatever. Puis les gens sont comme, oh, on boira pas, Alex est là. Puis je suis comme, hey, pour vrai. c'est un choix que j'ai fait pour moi. Faites ce que vous voulez. Si je vous inspire à réfléchir à votre consommation d'alcool, fine. Mais si vous le faites parce que je suis là, on s'en calisse, parce que tu vas arriver chez vous et tu vas te dévisser un 40 onces, là, c'est comme...
Mais il y a aussi une affaire de... Tu sais, moi, mettons... ça revient au consentement, mais tu sais, j'ai fait deux fois le mois sans alcool. Puis...
je t'avais pris en photo, d'ailleurs.
Ouais, absolument. Puis ça a été des mois... Moi, ça, la deuxième fois, je l'ai faite, la fois où on s'était rencontrés avec la gang de la fondation...
Jean Lapointe.
Ouais. Qui était fucking nice. Cette fois-là, ça a été vraiment une fois... En fait, c'est que j'ai réalisé à quel point quand tu dis que tu bois pas, beaucoup de gens, ah ouais, ils insistent.
Ah, t'es plate.
Ouais, puis c'est comme...
Je sais pas même.
Et là, ma carte, c'était je fais le mois sans alcool. Puis là, tout le monde est comme, ah,
cool.
Ah, OK, c'est chill, tu sais. Ouais. Mais alors que je fais, hey man, calisse-moi pas un verre dans la gueule. T'es pas supposé faire ça.
Ouais.
Tu sais, puis... Je suis même pas supposé d'avoir un argument pour te demander à ne pas me faire consommer quelque chose dans mon corps à moi. Fait que, puis il y a quelque chose de... Moi, mettons, le mois sans alcool que j'ai fait, c'est en 2019, février 2019. Ça a été, man, depuis... je fais plus de sieste. Moi, je faisais big time des siestes, là, tous les jours.
Moi, j'avais ça, même, je me réveillais.
Mais aussi, j'étais dans un rythme beaucoup de spectacles. Fait que je me couchais tard. Je me levais tard. Je buvais après les shows. Tu sais, là, une sieste avant le spectacle, tout le temps. Et là, ce mois-là, j'ai fait, je me suis toujours quand même pas mal entraîné, mais là, ça a été un game changer, là. Je me suis entraîné tous les jours, tu sais, minimum 15 minutes. Fait qu'on, moi et mon trainer, on variait les trainings pour vraiment récupérer aussi. Puis ça, l'énergie que j'ai eue, je peux même pas m'imaginer après 6 ans et demi.
Non, mais c'est parce que les gens sont comme, ah, l'alcool, c'est bon. Il y a des tocophérols dans le vin rouge comme d'autres. Je te donne une affaire qui est vraiment bon pour ton cœur aussi. L'exercice, bro.
Ouais.
C'est comme un secret. On dirait que les gens pensent qu'il y a des secrets. C'est comme, il n'y a pas vraiment de secrets. Le corps humain est le même depuis 50 000 ans, là.
Ouais.
Tu changes pas ça du jour au lendemain, tu sais. Je veux dire, l'alcool, c'est pas bon. Il y a d'aucune manière, l'alcool est bon pour le corps. C'est bon pour désinfecter des plaies. Ça va. C'est bon pour éloigner la COVID. Fine. Mais de l'ingérer, c'est poison pour le corps. Ça détruit les cellules. Donc, ça détruit tout. C'est comme la chimio. Je veux pas comparer l'alcool à la chimiothérapie.
J'espère qu'il y a pas quelqu'un qui a arrêté juste avant.
Puis qui fait comme, ah ben, calvaire.
Il a dit ça, c'est
il a
fini.
Dit ça. Là, je vais me faire radier de l'ordre des médecins. Puis je suis même pas médecin. Ils vont faire comme, jamais tu veux le devenir. Ils vont être fâchés. Fait, non, mais je te dis ça parce que c'est pas bon, l'alcool. Puis je veux pas dire aux gens arrêtez de boire. Mais... C'est quand la dernière fois que t'as entendu une histoire inspirante qui commençait par « On était chaud raide ouais. chez Maurice à Saint-Lazare, puis là, on a...
Ouais. »
Ça arrive pas, tu sais. Puis c'est pour... Moi, j'ai dit quand je le dis, j'ai des gens qui m'écrivent. Là, j'en parle avec toi maintenant. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder le podcast, qui vont l'écouter, qui vont m'écrire.
Ouais.
Hey, moi, je pense que c'est vraiment un problème dans ma famille. Ben, prends action. À ce temps que tu le sais, man. Puis qu'il y a des gens qui vont t'encourager là-dedans. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de bières sans alcool. Quand on change le monde, on change l'économie et non l'inverse. Tu sais, la bière sans alcool, au début, il y avait presque rien. Là, il y a la Bocale, qui est une microbrasserie québécoise qui fait que de la bière sans alcool. D'autres, c'est incroyable. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Les vins sans alcool, encore, je trouve ça pas buvable. Puis je m'excuse à ceux qui en font. Moi, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Mais c'est parce que les gens se conscientisent.
Mm-hmm.
Puis je reviens, je fais le lien avec ma fondation. Les gens vont se conscientiser sur les méfaits de l'utilisation excessive du temps d'écran de loisirs, des médias sociaux, du numérique, l'impact que ça a sur les familles, la connexion, la réelle connexion. Puis quand on va changer ça, on va changer de plateforme. On va pas aller cogner chez Facebook demain, faire comme, on sait que vous valez des milliards en bourse, mais on aimerait ça que vous arrêtiez deux secondes. Ben présentement, il y a pas de loi, il y a pas de cadre. C'est un peu le Far West aux États-Unis. Il y a YouTube Kids qui est épouvantable. Au Canada, au moins, on est régi par des lois sur la publicité faite aux enfants qui sont très sévères. Puis la même affaire pour vendre des produits. On est quand même bien encadré au Canada. Pas encore assez pour faire face aux médias sociaux, mais tout de même. Puis nous, on milite pour ça beaucoup. Fait que quand on va changer les gens, on va changer les comportements pour des gains qui ne sont pas économiques, mais pour des gains qui sont personnels, des bienfaits humains, on va changer l'économie. L'économie n'aura pas le choix de s'adapter parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on continue à payer nos affaires, tu comprends? Puis que tout le monde embarque là-dedans. Fait que c'est un peu ça le rôle de la fondation, c'est de faire prendre conscience aux gens du pouvoir qu'ils ont sur leur utilisation, avec des données scientifiques qu'on vulgarise parce qu'on dit, écoute, on sait que si tu passes plus que 4 heures par jour de temps d'écran de loisirs, tes marqueurs de santé physique, santé mentale diminuent de façon du double à chaque fois que tu doubles de 2 heures. Puis ça, c'est un rapport de la santé publique régionale de Montréal qui est sorti l'année passée. Jean-François Biron, vous pouvez aller googler ça, qui est dans mon comité aviseur de la Fondation aussi.
T'as un comité aviseur.
J'ai un comité aviseur qui est composé de gens qui font soit de la recherche.
Là, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Fondation Le Ciel.
C'est ça, j'ai parti d'une fondation qui s'appelle Le Ciel, ça veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Le but, en fait, puis je le résume bien dans le manifeste au début, c'est drôle.
Le manifeste, on peut-tu le trouver sur ton site?
Sur le site, ça sort le 4 octobre.
C'est ça, le podcast va sortir, c'est un lundi le 4 octobre?
C'est un dimanche.
Bon, mais ça sort le 5. Fait okay. C'était hier.
C'était hier. Fait
félicitations!
Hier. Merci, hey, yes sir! Merci, Jamie, pull that up. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'on, le manifeste va être sur le site, mais en gros, ce qu'on veut, c'est ça. C'est d'une part, on fait de la sensibilisation auprès des adolescents. On fait de la prévention aussi. On ouvre un dialogue avec eux dans un atelier qu'on fait dans les classes. Fait que ça dure une période. C'est pas long. On fait une classe à la fois parce que vu que c'est un puis là, je sais pas où est-ce qu'on va être rendu au 5 octobre, là, mais avec la COVID et tout ça, c'est quand même assez particulier comme précaution à prendre et choses à faire. Fait qu'on va dans les écoles secondaires, c'est pas moi qui donne les ateliers. Il y a des formateurs, des personnes qu'on forme. C'est par les jeunes, pour les jeunes. Donc, des gens qui sont au début de leur étude en médecine, des gens qui sont au début de leur étude en travail social, des choses comme ça. Puis, on les rémunère de façon symbolique pour qu'ils aient parlé avec les jeunes. Fait qu'on a tout un programme qui a
c'est
été fait.
C'est tellement hot,
man. C'est malade. On est les seuls à faire ça avec Jean Lapointe qui, eux, œuvrent au niveau de la cyberdépendance secondaire 1-2. Nous, c'est vraiment au niveau du numérique secondaire 3-4-5. Fait que le deuxième cycle du secondaire. Puis, dans le fond, c'est que 50% du temps, on va amener de l'information sur les mécanismes des plateformes numériques, sur les mythes du numérique. Est-ce que si je vais sur Internet ou je vais lire sur Internet, je vais moins lire de livres? Est-ce que Internet nous rend moins social, plus abruti, tout ça? Fait qu'on brise des mythes un peu avec eux. On n'est pas là pour diaboliser, on n'est pas là pour condamner, parce que c'est vraiment important qu'ils apprennent à se servir de l'outil adéquatement, tout en sachant que l'outil n'est pas neutre puis que l'outil a un gain avec leur présence en ligne.
Mais ça, c'est fucked up. Quand t'apprends que l'outil n'est pas neutre, c'est comme dire qu'un marteau.
Et le parallèle avec le marteau se fait pas du tout parce que le marteau, il est pas dans ta chaîne en train de dire viens, viens.
Non, c'est ça, mais viens. À la base, c'est que la perception que les gens.
Mais parce que ça a commencé comme ça.
C'est ça. Puis là, mais c'est ça, la perception de nos ordinateurs ou de nos téléphones, c'est que c'est un outil.
Hey, je pensais
ça,
pas appeler quelqu'un. C'est... Oui, mais TELUS te force pas à appeler ta grand-mère 14 fois par jour. Non. Tu comprends?
Non.
Ça, donc, c'est toi qui décides.
Donc, c'est un outil.
C'est un outil.
Mais il y en demeure pas moins que c'est quand même un... Puis après, c'est qu'il y a quand même des équipes qui sont assises à penser comment les êtres humains... C'est quoi la faille pour que les êtres humains restent là-dessus qui fait que t'es comme... Ton outil, c'est que c'est une nouvelle éducation. Toi puis moi, on est quand même plus jeunes. Fait qu'on a comme quand même... On est plus habiles là-dessus, nanana. Ouais. Nos parents, là, tu sais, je pense à la grand-mère, à Dave Bocage, qui a 93 ans... Elle, man, tu mets un pad à pendre. Elle, c'est un outil, là, tu sais. C'est pas diabolique. Il y a pas d'esprit. Il pense pas pour elle, tu sais, dans
mais donne-lui un board de Ouija, par exemple.
Yo.
Là, elle fait le saut, là. Elle fait le saut. Parce qu'elle peut parler à ses jumps.
Ouais.
Mais, non, mais t'as 100% raison. Puis, c'est un autre. En fait, les enjeux qu'on a ciblés, là, le plus avec des rapports du Pew Research Center puis de Common Sense, qui sont deux organismes qui font beaucoup, beaucoup de recherches. Scientifiques sur ces sujets-là, c'est le fait que les jeunes ont de moins en moins de connexions réelles avec les autres. Donc, ils préfèrent établir des connexions par le numérique pour avoir des amis, des trucs comme ça. Puis l'autre affaire, c'est le clash générationnel. Mes parents, qui ont probablement dans le même âge que tes parents, nous, les parents qui ont des ados présentement, donc entre nous deux et nos parents, puis les ados, on s'en sert toutes pas de la même manière parce qu'on n'a pas appris à s'en servir de la même façon. Puis on n'est pas arrivé au même moment dans le développement de ces outils-là. Ouais. Fait que ça, c'est comme la tour de Babel un peu. Tu comprends? On a quelque chose à faire tout le monde ensemble, mais on parle pas la même langue. Mmh. Absolument pas. Fait que ça, c'est deux enjeux qu'on a ciblés. Fait qu'on va parler de ça aux jeunes, puis en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on les écoute. Parce que je trouve que dans l'espace public, puis dans un paquet d'affaires, on n'a pas assez. Puis tel jeune a fait un power move récemment, ils ont un conseil de jeunes.
Oui, avec Nick Ouellet.
Avec Nick Ouellet.
Extraordinaire.
J'aime tellement Nicolas.
Extraordinaire.
J'aime tellement sa pertinence, sa prestance, sa classe, son intelligence. Ce gars-là, pour moi, c'est un gars parfait. Là.
Je l'ai reçu 2 fois au podcast. Oui. Je le considère comme un ami, tu sais, plus éloigné. Somme toute, là, je l'estime énormément. Puis c'est un gars que j'admire beaucoup. Mais c'est un gars, tu disais tantôt, tu sais, on parlait d'humilité. Il, malgré sa grande intelligence émotionnelle, culturelle, name it, Il a une humilité gigantesque.
Il fait pas de bruit, comme,
il est extraordinaire.
Puis il fait bien ce qu'il fait.
C'est vraiment une bonne personne, je trouve. Quand elle est jeune, quand j'ai vu qu'elle est jeune, on choisit Nicolas pour ça, j'étais comme ah bravo,
ouais, meilleur choix.
Calice.
Meilleur choix. J'étais vraiment content. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il donne la parole à des jeunes parce que quand t'es ado, t'es entre deux. T'sais, t'es entre l'enfance où on répond à tes besoins primaires. T'es entre l'âge adulte où on te laisse à toi-même à 100%. Puis c'est comme t'as 18, tu peux boire, checker de la porn, puis avoir un permis de conduire. Bonne chance. Alors que moi, à 35 ans, je suis comme, oh my God, j'aurais aimé ça qu'on m'explique des affaires, tu sais, ou j'aurais aimé ça en étant ado, exprimer des choses puis que les adultes répondent. Parce que moi, le rapport aux adultes que j'avais, c'était catastrophique, là. Tu sais, ma mère était overprotectrice. Mon père, je le voyais pas souvent, mais j'ai quand même eu des très, très bons parents qui ont fait des choses extraordinaires. Je les aime d'un amour incommensurable. Tu sais, il n'y a pas de limite à l'amour que je porte envers mes parents. Puis tout ce que je fais dans la vie, je le fais pour eux autres, tu sais, parce que je suis conscient qu'ils sont pas capables de me donner ce qu'ils ont jamais reçu, tu sais. Mais après ça, tout le cadre autoritaire, le professeur, directeur et compagnie, mon gars, moi, j'étais une tempête, là. Je pouvais pas. C'était comme non. J'avais un rapport à l'autorité qui était très, très problématique. Puis pourquoi je dis ça déjà, c'est que je sentais pas que j'avais la place pour m'exprimer. On prenait des décisions pour moi alors que j'étais conscient de l'impact de ces décisions-là, mais je pouvais rien dire. Fait qu'on me muselait, puis on muselait tous les autres autour de moi qui avaient peur de parler parce que probablement qu'à la maison c'était pas pareil ou whatever, je sais pas. Mais moi je parlais, tu comprends? Mais je t'ai jamais entendu. Alors là que je vois un peu une révolution qui se passe en ce sens-là, je suis vraiment content. Donc avec les ateliers, on veut entendre les jeunes sur leur manière de s'en servir parce que c'est comme ça qu'on va tracer la manière de s'en servir pour demain, parce que ça va pas. Écoute, ma fondation, dans 2 ans, je peux pas faire comme voici le bilan, on a fait ce qu'on avait à faire, tchao, bye, je mets la clé dans la porte, puis j'ai réussi.
Mais puis le pire, c'est qu'il y a personne qui aime se faire faire la morale.
Mais non,
jamais on est dans la vie. Il y a
moi,
personne.
Je suis qui, man? Tu as vu les stories que je poste, là? Je suis pas le plus brillant de la gang, puis des fois, j'ai du fun, je mets des niaiseries, d'autres fois, je mets des affaires pour flasher un peu, parce que, bon, évidemment, il y a une partie de moi qui aime ça être validé, comme tout le monde. On l'a à certains niveaux, moi, ça paraît plus. T'sais, j'ai des amis qui font comme toi, tu t'aimes quand même un peu, puis je suis comme non, c'est plutôt l'inverse. Des fois, j'ai de la difficulté à m'aimer, donc je mets des affaires vraiment futiles, où est-ce que les gens vont faire comme wow, puis je vais faire comme nice. Mais je sais quand je vais me coucher le soir que je pleure en boule, je suis comme j'aurais pas dû faire ça. Je te le monde merci. De manière exagérée, je suis pas de même, mais
non.
Je le fais quand même pour ça des fois.
Tu chemines là-dessus, par contre.
Oui, puis je le dis que je chemine. Je le dis pas pour me faire réconforter, je le dis parce que moi, quand j'ai commencé à faire des crises de panique en rentrant à l'école de l'humour, mon gars, je pensais crever sur place. Puis ça a duré 2 ans de temps, puis je ne sortais plus. Je faisais des crises de panique tellement fortes que je paralysais d'autres. J'étais pas capable de bouger parce que j'avais peur de faire un AVC, j'avais peur de casser en deux, j'avais peur de devenir fou, j'avais peur de mettre à plus voir clair, de devenir schizophrène instantanément, j'avais peur d'un paquet d'affaires, man, j'avais peur de tout. Puis à un moment donné, j'ai dit là, ça suffit. Puis je sais que si j'avais eu une voix comme celle que je pense que j'ai en toute humilité,
ou du moins le micro que tu portes devant des gens qui ont
qui ont ça, parce que tu sais, la fondation c'est pas moi, c'est toute l'équipe au complet. Honnêtement, on est plusieurs. Tu sais ça, je te dis, le fait comme tu me dis comment ça va la fondation, je suis comme on est comme genre 25.
C'est malade.
Pardon. Puis tu sais, c'est un comité aviseur, un comité d'inclusion aussi, on a décidé de faire ça. L'idée était déjà en branle avant le Black Lives Matter, puis on a voulu, parce que moi j'ai fait souvent des campagnes pour des communautés marginalisées, les itinérants, les personnes en situation de pauvreté, les musulmans à Québec après l'attentat de la Grande Mosquée. J'ai toujours aimé ça, donner mes plateformes à des gens qui n'avaient pas de voix dans les médias, ou quand il y avait une voix dans les médias, que c'était pour des intérêts de clics, puis d'affaires comme ça, puis de sensationnalisme, puis moi ça m'écœure, tu sais. Fait que puis je me dis que si on veut aider tout le monde, on doit absolument commencer par les gens qui ont le plus besoin d'aide. Fait qu'on a fait un comité où on a pris des personnes issues de communautés marginalisées. Personnes noires, personnes grosses. Oui, je dis personnes grosses. Je pense que c'est le terme approprié. Je pense à Julie Artachaud qui est dans mon comité, qui est photographe, qui est aussi activiste contre la grossophobie. On a les personnes homosexuelles, les personnes trans, les personnes autochtones et les personnes à mobilité réduite. J'espère que j'en oublie pas. Tout est sur le site. J'ai beaucoup d'informations.
Ouais.
Mais ces personnes-là sont pas là pour être des tokens. C'est pas genre, hey, on a un comité d'inclusion, on est chill, on n'est pas politically correct. Ces gens-là sont rémunérés pour leur créativité, leur contenu. S'ils font du contenu avec nous, on les paye pour ça, ils passent à nos podcasts. Ils sont là aussi pour décider de nos politiques à l'interne, même affaire. Donc, on est personnes musulmanes aussi. Nos politiques à l'interne, fait que est-ce que nos politiques sont assez inclusives, puis on prend l'opinion de tout le monde, puis ils ont une place aussi sur le CA, parce qu'on veut aussi qu'ils apprennent comment ça fonctionne un CA, c'est quoi le...
Mais puis c'est tellement important, moi souvent c'est... je trouve que, mettons, que je prends le milieu que je connais, qui va être, mettons, le milieu artistique ou la télévision, ben souvent, des fois, c'est comme placé la diversité.
Ouais.
C'est comme, on a placé cette carte-là, regarde. Puis je suis comme, c'est pas mieux, c'est pas incarné, parce que, justement, en haut, autour de la table, c'est là qu'on a besoin de la diversité. Ben, parce exact. Que si la diversité est là, on va la retrouver ailleurs. Ouais. Fait que c'est génial que vous ayez ça. Puis c'est pas placé, c'est parce que ces gens-là ont une voix. Puis vous devez juste, tout simplement, ensuite de ça, tu sais, vous leur... C'est génial, je trouve ça génial.
Ben en fait, puis ces personnes-là participent activement au contenu parce que nous, à chaque mois, on a une thématique différente. On a des saisons de contenu. Deux fois par année, on a 4 mois de suite. On a un mois où on fait absolument rien, comme rien, zéro. Puis c'est pour manifester au droit à la déconnexion, au droit social à la déconnexion. Dans le fond, tu sais, les employeurs qui t'envoient email à 10 heures le soir ou des choses comme ça, ça, c'est un droit en France qui est en train de prendre de l'expansion, là, l'idée du droit à la déconnexion en Europe. J'ai pas les termes exacts, là, mais ouais. c'est un truc qui monte en popularité. Nous, on a un mois où on fait ça. Ben, 2 mois dans l'année, fait qu'une fois 2 mois. Deux fois un mois, excuse. Ensuite de ça, on a un mois qui est une campagne de financement, puis on a 4 mois de contenu. Fait qu'à chaque mois, on change de thématique, puis au lieu de se revirer vers nos amis qui nous ressemblent, donc qui sont des blancs comme moi, hétéro et compagnie, on va au comité d'inclusion, puis on dit, OK, ce mois-ci, on parle, par exemple, de la performance.
Comment t'as trouvé ces personnes-là?
C'est toutes des gens que je suivais sur Instagram, c'est des gens à qui j'ai déjà parlé, puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, j'aimerais ça faire une gang avec vous autres. Je pense que ce serait cool, parce que je sais que si moi, demain matin, tu me demandes d'aller chercher quelqu'un pour me parler de quelque chose, la personne va être blanche, la personne va être hétéro, la personne va... J'en connais des gens qui sont au-delà de mes ressemblances, tu comprends, mais j'en connais pas assez. Puis c'est ça le problème, c'est que il y a un gars de... Excuse, je me suis craqué le poing. Il y a un gars de Wall Street qui a dit, j'aimerais bien ça avoir un CFO top tier qui est noir, mais le pool est limité. Puis là, il se faisait garrocher des roches, mon gars. Puis j'étais comme, mais il n'y a pas tort. Le pool est limité mathématiquement. Tu as beaucoup moins de chances de trouver une personne qui est issue de la communauté noire que de trouver une personne blanche qui te ressemble. À cause du système oppressif dans lequel on est, à cause du white supremacy, à cause de toutes ces dynamiques-là, ces enjeux-là. Fait que oui, c'est difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'était primordial de faire l'exercice, de trouver des gens issus de ces communautés-là qui sont aussi des créateurs de contenu, qui ont quelque chose à dire, puis qui s'expriment facilement, puis qui ont un audience. C'est très tough faire ça, sauf que je l'ai fait. Ben, on l'a fait, en fait. Puis je suis vraiment fier de ça parce que ces gens-là, non seulement ils sont là, mais ils participent. On veut les empowerer en amplifiant leur voix ou en amplifiant la voix des gens qui leur ressemblent. Puis pour moi, c'est super important. C'est pas pour être politically correct, c'est juste que moi, je vois les nominations du gars d'artiste, puis je suis comme. Tu sais, il y en avait des comédiens, là. C'est pas vrai. Puis après ça, tu fais oui, mais c'est des choix du public, nanana. Je comprends, mais si on met pas la barre plus haute, ça changera jamais. La nature est paresseuse.
C'est fucking whack de remettre ça entre les mains du public. Genre, c'est fucking whack. C'est comme, c'est pas de la faute du public parce que c'est pas eux qui ont casté le monde.
C'est exactement
ça. Ça part de là. Ça repart de la table.
Ah, c'est ça que le public veut. Moi, ça me faisait chier quand on se faisait dire ça à l'école ou avec des producteurs. Ouais, mais c'est pas ça que le public veut. Je suis comme, c'est sûr que si tu donnes comme du steak à une personne pendant toute sa vie, elle va juste vouloir manger du steak parce que pour elle, manger, c'est du steak. Mais si tu commences à lui donner des nutriments qui sont le fun, qui de la diversité puis tout, elle va aimer ça. Le monde n'est pas cave, là. Tu sais, des fois, on a tendance à dire que le monde est épais, mais moi, je crois pas à ça. Je pense que tout le monde a le potentiel d'élever son esprit, son niveau de discussion puis tout. Puis pour moi, ça, c'était impératif qu'on l'ait. T'sais, c'était
c'est
vraiment,
super
vraiment
cool. Puis en plus, c'est que il arrive avec un bagage de connaissances que tout le monde n'a pas par rapport à leur communauté, leur réalité, puis après ça, leur réalité. T'sais, comment leur communauté utilise les réseaux sociaux, puis comment après ça, ben l'idée c'est quoi? Quand tu parles d'une fondation, j'imagine que l'idée c'est que le message se rende aux gens que ça concerne.
Ouais. Puis en fait, le développement de la fondation, pourquoi ça a pris du temps, puis pourquoi j'en ai pas vraiment parlé? Parce que la réflexion, on va en parler quand on va être sorti. Puis je voulais aussi arriver à quelque chose de vraiment solide. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont pas cru. Il y a tellement de monde qui pensait que je disais ça. Puis comme je disparaissais dans la brume. Mais je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'on a sorti puis de ce qu'on fait. Puis on construit un avion en plein vol. On est les seuls au Canada qui faisons ce qu'on fait. Il y en a pas d'autres. Il y a zéro personne qui fait ça.
Mais le pire, c'est que ça arrive à un moment tellement important. C'est tellement important que on éduque tout le monde. Et particulièrement, je dis les jeunes, mais je me considère dans la gang, là, tu sais, faut qu'on s'éduque là-dessus. On le connaît pas, ce bébé-là. On sait pas comment ça marche. Puis ceux qui savent comment ça marche ne semblent pas empathiques à notre situation, ne semblent pas à l'écoute de nos besoins.
C'est une structure économique. Je vais revenir avec ça 1000 fois, là. Mais le problème, c'est que le data qu'on a sur les gens nous permettrait de faire des avancées incroyables au niveau de la science des soins en santé mentale. Si tu es capable de prédire ce qu'une personne a envie d'acheter parce que tu as étudié son comportement à la lettre pendant des semaines et des semaines sur son temps passé sur un écran, tu es capable de dire si elle s'approche de la dépression, si elle a un trouble anxieux, si elle a un trouble obsessif compulsif, s'il y a un enjeu de santé mentale, parce que tu peux associer des manières d'utiliser les médias sociaux et des enjeux de santé mentale, je suis convaincu de ça. Je le sais d'instinct. Puis ce qui est vraiment fantastique, là, je vais me vanter parce que j'aime ça faire ça. Mais depuis le début, je travaille avec une fille qui s'appelle Emmanuelle Parent. Emmanuelle, je l'ai découvert par hasard après que j'ai fait ma vidéo. Elle m'a écrit un courriel. Elle décrivait point par point la vidéo que j'avais faite. J'y ai dit, qu'est-ce que tu fais dimanche? On va prendre un café. Ça faisait 20 minutes qu'on était ensemble. J'ai dit, Emmanuelle, je t'engage. Go. Puis on est encore ensemble, on se parle tous les jours, puis je la nomme comme étant la cofondatrice de la fondation parce que sans cette personne-là, sans Emmanuelle, qui est doctorante en communication à l'Université de Montréal, qui fait sa recherche, son projet de recherche sur les normes sociales utilisées par les adolescents sur les réseaux sociaux, ça tombe-tu assez bien?
Les normes sociales?
Les normes sociales que les ados ont sur les réseaux sociaux. Donc, elle va poser des questions aux ados comme, pourquoi tu likes ça? Pourquoi tu passes plus de temps là? Pourquoi tu fais? On veut comprendre c'est quoi la mécanique derrière l'humain et non la machine. Fait qu'on pose des questions. C'est son projet de recherche. Emmanuel est une fille extrêmement brillante. On a le même genre d'humour. Pour vrai, je l'ai découvert, puis c'est dans mon top 5 des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées de ma vie.
Yo, elle viendrait-tu au podcast?
Ah, j'aimerais tellement ça.
Ouais.
J'aimerais tellement
Parfait.
Ça, mon gars.
J'aimerais ça la recevoir.
Puis tu pourrais la recevoir juste elle, honnêtement. Là.
Oui, c'est ça.
Parce que moi, je te dis, je sais qu'on va avoir des entrevues, si c'est pas déjà fait, rendu au 5 octobre, puis je veux qu'Emmanuel vienne avec moi. Parce que honnêtement, le nombre de fois qu'Emmanuel a pris mon idée, puis elle a fait comme, on amène ça ici. Je peux pas dire c'est ma fondation, c'est notre fondation, Emmanuel et moi. On a navigué à travers mon gars tellement d'affaires. On avait, tu sais, nos sessions de travail, c'était des discussions de comme 6 heures sur Black Lives Matter, sur Twitter, sur Instagram, sur le CEO d'Instagram. C'est quoi la, tu sais, puis comme, des fois les gens sont comme, c'est quoi tes journées? Je suis comme, honnêtement, je peux pas mesurer mon travail en heures. Je pense constamment à ça. Puis on est parti de, comment j'avais dit ça au début? Je disais que je voulais anéantir le fardeau psychologique lié à l'utilisation des médias sociaux. Comme si, de facto, dès que tu vas sur les médias sociaux, tu as un fardeau psychologique alors que c'est pas vrai.
Non.
On exploite tes failles psychologiques, tes faiblesses psychologiques pour un gain économique, mais ça veut pas dire que parce que tu es là-dessus, tu es stupide.
Non.
Ça veut juste dire que si tu es là-dessus, fais attention. Puis là, on a changé le slogan. Puis maintenant, notre tagline, c'est médias sociaux positifs. Ça veut tout dire. On a résumé. Puis ça, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de discussion. Là.
Mm-hmm.
Puis il parlait à du monde, des chercheurs. Puis c'est le bout du travail qui est vraiment le fun, mais c'est complexe, puis c'est pas intéressant à partager. C'est intéressant de le partager sous forme de contenu puis de faits scientifiques vulgarisés, mais d'amener le monde là-dedans pendant le développement, c'était...
Je trouve ça tellement pertinent, là. Tellement pertinent. Là.
C'est smart.
Mais c'est vrai, bravo. Puis je c'est là... C'est la même affaire dans tout. Faut s'éduquer. Faut en parler. Puis je trouve que trop souvent, moi je me perçois encore comme un ado parce que je suis pas parent. Puis fait qu'on dirait que naturellement.
Je me perçois encore comme un ado. T'en as pour un bout,
même. C'est ça, tu sais. Mais il y a quelque chose de. On va museler ou prendre les ados pour des caves ou des enfants, tu sais, en faisant. Non! Nous, on le sait, puis c'est comme nourrir la magnifique bête
qui est
un adolescent.
Tellement.
T'as aucune idée ce que ça peut sortir. C'est des éponges, sont brillants, ils ont un regard nouveau, sont dynamiques, sont quick, ils veulent.
C'est
comme fucking... Moi, là, la meilleure affaire qui m'est arrivée, c'est que j'ai travaillé avec mon père. Autant ça a été tough, autant mon père avait tellement confiance en moi. Ben, à un âge que moi, j'avais pas confiance en moi. Où à 14 ans, mon père, une cargaison de bouteilles vides à débarquer avec le tracteur, c'est toi qui vas faire ça. Mais mon père, si ça vaut je sais pas combien. T'es capable, si? Je t'ai montré comment. Ouais, mais ben vas-y.
Écoute, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est qu'il faut pas que tu brises la candeur puis l'innocence d'un enfant en développement. Tu sais, ce que ça prend pour élever un enfant, c'est du support puis de la liberté, ce qui sont deux concepts très paradoxaux. Parce qu'on a tendance à croire que le support, c'est d'être là tout le temps, 24 heures sur 24, mon gars stressé, raide, tendu comme une barre pour ton enfant, si jamais il tombe ou whatever. Puis la liberté, on dirait que c'est comme, ben oui, tu peux te teindre les cheveux puis faire de la coke dans le métro Namur, ça me dérange pas. Alors que comme, il y a plus à ça, tu sais, au support et à la liberté. Puis c'est comme les deux ailes d'un oiseau ou comme, si t'es tout seul à ramer dans un canot, tu vas tourner en rond. Fait que c'est un peu la même affaire, tu sais.
Vas-y.
Non, vas-y.
Mais j'ai pas d'enfant, là, évidemment. Puis, mais.
Es-tu certain?
Esti. À un moment donné, à la fin de mes shows, je disais ça. Je revenais, puis les gens étaient debout des fois. Je suis comme. Tu sais, vous pouvez vous rasseoir. Faites ce que vous voulez. Je suis pas votre père. Parce que, à ce que j'espère. J'ai comme, t'imagines, Esti, arriver à du loup, puis t'apprends.
C'est anyway. Ça.
Mais il y a quelque chose que je. Je pense que je souhaite avoir des enfants un jour dans ma vie, puis on dirait que le peu que je connais sur cette affaire-là, que sont des enfants ou être père ou être parent, c'est ils ont juste besoin... Comme, j'ai l'impression que je pourrais pas avoir mon téléphone quand je vais être père. J'ai l'impression que tout ce
que... Tu sais, tu restes la même personne. Hein? Moi, il y a une phrase que je trouve extraordinaire que j'ai lue, je me souviens plus d'où ça vient. Ça dit « How you live your days is how you live your life ». Fait que comment tu vis tes jours, c'est comment tu vis ta vie. Tu sais, tu peux être dans une journée, tu as des aspirations, tu as des buts, tout ça, puis tu fais comme « Ah ». Puis tu fais les mêmes affaires que d'habitude. C'est ça ta vie, man. Ta vie, c'est chaque seconde, une après l'autre que tu vis. C'est ça ta vie. C'est tes jours.
T'as-tu écouté, je reviens souvent là-dessus, là, mais t'es-tu sur Crave?
Oui, mais...
En tout cas, le Zen Diaries of Gary Shandling, c'est réalisé par Judd Apatow, Gary Shandling. J'en parle quand même souvent sur le podcast. Là, je suis peut-être radoteur, mais Chris, qui est extraordinaire, man.
Ah, je vais checker ça, man.
Il est génial. Je te l'enverrai si tu veux. Puis, à la fin du documentaire, c'est deux épisodes relativement longs, mais pour moi, c'est du calice de bonbons, asti. Puis, Gary Shandling était dans une grande quête de zen. À une époque aussi où personne méditait, là, tu sais, lui méditait dans les années 70, 80, 90. Puis à la fin, on a eu une conversation avec un, je sais pas si c'est comme un, pas un preacher, là, mais un monsieur bouddhiste bien établi, je sais pas c'est qui, là, mais puis il y a une petite conversation avec Gary, puis à un moment donné, il dit, tu sais, mon corps vit dans le temps, ma vie vit dans le temps, mais moi, je vis juste dans le moment ici.
Ouais, c'est ça.
C'est juste ici. Mon être ne vit pas dans... Je suis ici.
Mm-hmm.
Puis c'est tout, tu sais. Puis c'est fucking puissant, là.
Ben, c'est ça, le but de la méditation. C'est vraiment de profiter des secondes qui sont là. Puis tu sais, oui, c'est bon, les aspirations, tout ça. Mais ce qui est important de voir, c'est l'impact que t'as réellement.
Ouais.
C'est oui, t'aspires à des bien belles affaires. Tu sais, je veux devenir un meilleur papa, tout ça. Puis c'est pas grave non plus d'avoir des défauts. C'est pas parce que t'as un enfant que tu changes du jour au lendemain.
Non.
C'est pas arrivé. Moi, ce que ça m'a appris, c'est l'amour inconditionnel. Je pensais jamais aimer de même de ma vie. Ce que ça m'a appris aussi, c'est de m'éloigner de mon confort aussi, une fois de temps en temps. Puis même encore, je le fais pas autant que je voudrais. Des fois, je tombe dans la facilité, tu sais, aux affaires comme ça, mais j'essaie de me parler tranquillement le plus possible, tu sais, mm-hmm. le plus doucement pour justement que Jeanne, elle sente que c'est correct de se tromper, mais comme prends action après pour revenir.
D'avoir de l'empathie pour toi aussi.
Eh bien oui, parce que c'est facile d'avoir de l'empathie pour les autres, mais pour soi, c'est... Un moment donné, David Bernard, avec qui j'avais animé District V en
1989. Yo, oui!
D. Bernie, District V.
Classique!
Écoute, un monument de la télévision québécoise dont personne ne se souvient probablement. Il m'avait dit le chemin le plus long qu'un homme a à faire, c'est entre sa tête et son cœur. C'est pas lui qui a inventé ça, là.
Non.
C'est un principe bouddhiste. J'avais fait comme oh wow. Puis de là était parti mon éveil à un paquet d'affaires après.
Fait que là, tu mettais ton cadran à 5 heures du matin.
5 heures du matin.
Pour méditer pendant une heure.
Jusqu'à 6 heures. Pas de musique. Pas de son, sweet fuck all. Je mettais juste un timer.
Le premier matin, c'était-tu dur?
Non, c'était jouissif, mon gars. C'était l'extase totale, deuxième, troisième. Ça a toujours été vraiment nice.
Fait que là, puis qu'est-ce que tu faisais de tes journées?
Je lisais. J'ai lu deux livres de Guy Winch. Le premier s'appelle How to Fix a Broken Heart, comment réparer un cœur brisé.
Ouais.
Le deuxième s'appelle Emotional First Aid, donc les premiers soins émotionnels. Je trouve ça vraiment pertinent parce qu'il milite pour qu'on traite les soins émotionnels comme les soins d'urgence en santé à l'hôpital. Quelqu'un, on jase, je me lève, je m'enferme, je me casse le bras. En une fraction de seconde, j'ai un ambulance, je suis à l'hôpital, ça me coûte pas une scène, on me répare. On jase ici, toi et moi, mettons, on est un couple, ça fait des années qu'on est ensemble, des enfants, puis tu m'annonces que tu veux qu'on se sépare. Je suis en détresse émotionnelle présentement, j'ai aucun recours. Zéro recours. Je pense que ce serait important qu'on puisse avoir des recours pour ça. Une ligne téléphonique, un endroit où tu peux te rendre pour la détresse. On pense que la détresse psychologique, c'est une psychose, quelqu'un qui tombe en névrose, maniaco-dépression, dans une phase maniaque ou dépressive, tentative de suicide. Mais il y a tout un spectre à avoir. Puis je dis pas que si tu te fais insulter sur Internet, tu vas à l'hôpital pour les émotions. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu sois en mesure de subvenir à tes propres besoins émotionnels, chose que tu peux pas faire si t'es pas médecin. Là. Mais en même temps, je pense qu'il faut que tu sois à un niveau quand même assez élevé pour savoir comment te traiter. C'est comme quand, moi je dis à du monde que Jeanne, on la laissait pas pleurer. Puis elle était comme, ouais, mais là, il va falloir qu'elle apprenne à se conforter tout seul. J'étais comme, si j'ai 34 ans puis je suis pas capable de me conforter tout seul. Fait que je peux pas y laisser 20$ à ma fille puis elle va se casser chialer du Saint-Hubert, c'est à la fin. Là. Faut qu'on aille à travers une démarche de t'as un cadre, t'as du réconfort, puis comme ça se peut. Tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que ce livre-là était vraiment le fun. Un autre livre que j'ai lu, c'est Choisir la personne qu'on aime. Je vais te retrouver les titres et les auteurs exacts ouais. parce que c'est vraiment très pertinent. C'est sur pourquoi on entre en relation toxique avec une personne. Mm. Vraiment intéressant. J'ai lu le livre Les écrans verts de B-Side Magazine qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'utilisation du numérique dans nos vies. Des textes, des fois hilarants, des fois très révélateurs. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. C'est un recueil de textes qui est magnifique. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre?
Fait que tu lisais à longueur de journée.
J'ai écouté 3 ou 4 fois Captain America 2 parce que j'étais un poste à Sherbrooke. J'étais à Stratford, je pense.
Ouais. L'université.
Devant un lac. Ouais, c'est ça, à
oh, oui, Michigan. Absolument. Ben oui.
Les cantons de l'Est, le Michigan.
Ben enfin, oui.
Les grands lacs. Là. Les gars, ils connaissent son affaire. Je lisais, je cuisinais. Je m'entraînais, j'allais marcher, je prenais l'air, je réfléchissais, je me couchais vraiment de bonne heure. Je braillais énormément. Moi, j'aime ça pleurer, mon gars, man. C'est la chose la plus libératrice au monde. C'est comme, j'ai l'impression qu'on a des éponges. Là, tu passes à travers ta journée, t'absorbes plein d'affaires, t'absorbes la négativité des gens. T'absorbes un paquet de shit, mon gars. Puis là, t'arrives chez vous, puis là, je prenais ma douche, man, puis comme, ça sortait d'une shot. Puis après, j'étais genre, hey! Puis là, je chantais... Celebration, puis je dansais tout seul. J'étais un peu weird quand je suis tout seul. J'avais des...
C'était-tu la première fois que tu passais autant de temps seul?
Non.
C'est ça, fait que t'es quand même rodé.
Les autres fois, c'était en voyage.
C'est ça.
Mais quand t'es en voyage, dude, c'est facile de t'étourdir. Là. Il y a des montagnes, tu prends des photos, tu rencontres du monde. Mais quand t'es tout seul à Stratford, dans un petit chalet, là, puis t'as pas d'Internet, mon gars, là...
Mm-hmm.
Au début, j'écoutais beaucoup la télé, puis à un moment donné, je faisais des feux, puis j'étais vraiment rendu vraiment fort pour me faire des feux dans le foyer. Puis à un moment donné, j'étais allé au spa, au Strom Spa, je pense à Sherbrooke. Mais tu sais, c'était ça mes sorties, là. J'allais à l'épicerie une ou deux fois, mais je voulais pas résister à ça. J'avais besoin de vivre mes shit.
Ouais.
Puis de revenir après. Puis là, je veux le refaire dans vraiment pas longtemps. Là.
J'ai reçu Jason Roy-Léveillé au podcast, oui, il y a quand même plusieurs mois de ça. Man,
il est drôle.
Il est vraiment cool. Puis il me racontait qu'il a été en Estrie dans un centre de silence.
C'est-tu la retraite Vipassana?
Je ne sais pas. Il l'a sûrement dit sur le podcast. Là, mais puis c'était une place où justement, là, tu payes. Puis, tu sais, puis là, ben, t'as ta petite cabane. Puis ils viennent te drop. Puis c'est comme, je pense, c'est une affaire de une semaine. Genre,
ouais.
C'est comme, t'as rien. T'as un papier, un crayon. Man. Tu m'en parles, il y a une partie de moi qui est très excitée, une partie de moi qui est très terrifiée.
C'est comme une abysse, en fait. C'est que le propre de nos existences s'est rendu de combler un vide.
Ouais.
Puis le vide est normal, tu sais, parce que c'est souffrant à vivre. Là, je veux pas me faire le Jean-Paul Sartre de ce monde, tu sais, un existentialiste. Lourd et compagnie, puis je veux pas atténuer ou diminuer la qualité du travail de Jean-Paul Sartre. J'ai lu le livre Le Mur, j'avais envie de m'en aller de la planète, mon gars. Je trouvais ça... C'était tellement pesant, mais c'était tellement nécessaire à ma compréhension d'un paquet d'affaires. Bref, ça pour te dire qu'on essaie tout le temps de s'empêcher de ressentir les affaires, que ce soit en magasinant, puis plus ça va, plus on a la technologie puis les moyens de l'oublier plus facilement, puis le binge-watching, binge-eating, les diètes, c'est ça, ça c'est la vérité. Alors que, man, ce qui est important, c'est la vraie connexion. T'écouteras Your Undivided Attention, épisode 8, sur What is the opposite of addiction? C'est quoi le contraire de l'addiction, de la dépendance? Puis il est comme, c'est pas la sobriété, c'est la connexion.
Ouais.
C'est de se connecter à du monde, à des affaires, des passions, des crafts, des choses que t'aimes. C'est vraiment niaiseux. C'est pour ça que des fois, je lisais des trucs, genre des trucs de self-care. Fais un dessin. J'étais comme, oh my God! Mais je réalise que pour vrai, quand je dessine avec ma fille, maintenant ma fille, elle dit, je veux qu'on fasse des dessins. Ma fille, elle est tellement pas exigeante. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut aller à la ronde. Moi, je suis tout le temps là, comme un peu hyper. Je suis comme, je veux tout offrir la planète à ma fille. Puis ma fille est comme, je veux faire des dessins avec toi, papa.
Mm-hmm.
Puis je suis comme, ah! Oh. Puis là, on fait des dessins, puis je suis comme, my God, j'ai passé. Puis ça m'énergise, ça me galvanise, mon gars. Là, c'est... Puis j'ai colorié un pain, tu sais. J'ai pas eu 4000 likes sur Instagram, d'autres, j'ai colorié un pain avec ma fille, puis c'est ma journée, là, ça. Là. C'est... Il y a rien de plus précieux que ça. Je donnerais ma fortune au complet pour pouvoir faire ça tous les jours. Comme, c'est la meilleure affaire au monde. Fait que c'est ça, man.
Man, j'aurais continué à parler non-stop.
Ouais, moi aussi.
Mais j'ai un autre podcast enregistré.
Je veux que tu fasses ton autre podcast. Tu me réinviteras dans 6 mois.
For sure.
On fera un touch base.
Fait que Fondation Le Ciel.
Ouais, Fondation Le Ciel, leciel.ca.
Leciel.ca.
Les informations sur la fondation sont là. Si vous voulez booker un atelier à votre école, on a un courriel aussi où vous pouvez écrire, c'est atelier@commercialleciel.ca. On sait que pour la première année, même la deuxième, on sera pas capable de répondre à toute la demande. Il faut former des personnes pour le faire. C'est vraiment un contact un à un avec les jeunes. C'est d'une grande qualité, ces ateliers-là. Ça a été instauré par un organisme qui s'appelle Bien-être numérique. Ils ont bien voulu rentrer dans notre organisme. Charles-Antoine Barbeau, d'ailleurs, qui est en médecine à Sherbrooke, fondé ça avec d'autres personnes dont tous les noms m'échappent, fait que je veux pas faire d'erreur. Ouais. Mais Bien-être numérique, c'est notre offre de services en éducation puis en prévention auprès des jeunes. Sinon, ben notre compte Instagram, fondation.le.ciel, c'est le handle. Puis c'est ça, à chaque mois, on change de thématique. On fait ça 4 mois de la shot, mois de déconnexion, campagne de financement. On prend les dons en tout temps. Sur le site, on peut avoir des reçus de charité. Voilà, on est encore en train de voir comment on va faire nos campagnes de financement avec la COVID, tout ça. Fait que, pour l'instant, c'est ça. Puis un peu plus tard, on a d'autres volets qui vont s'ouvrir comme un camp de connexion pour les jeunes, pour aller leur apprendre à servir de leur instinct. Fait que des espèces d'ateliers de pleine conscience, des trucs de comment s'orienter dans le bois. Vraiment des choses qui nous rapportent à comment on a évolué comme humain pour se séparer des écrans, mais aussi trouver quelque chose, une connexion qui est intéressante, des métiers, comment bouger, tu sais, sport, n'importe quoi. Fait que ça, on est en train d'élaborer ça. Puis on veut guider aussi les instances gouvernementales pour l'encadrement des pratiques des créateurs de plateformes de médias sociaux.
Merci de faire ça à toi et toute ton équipe.
Ça me fait vraiment plaisir,
Manon. Je vais suivre ça de près. Je suis vraiment heureux. C'est rassurant de savoir que le ciel est là.
Moi, je trouve que oui. Puis je l'ai fait. En fait, les gens sont comme, t'es vraiment une bonne personne. Puis je suis comme, je l'ai fait pour moi.
Mais continue de prendre soin de toi, mon gars.
Toi aussi.
Puis je
pense que je vais venir avec toi pour la prochaine manucure.
Ouais?
Manucure.
Quand t'es prêt, tu m'écris. Je vais écrire à Émilie au manoir, puis on fait ça.
Veux-tu une anecdote?
Ouais.
C'est à cause d'une manucure que je m'étais fait faire pour une émission qui s'appelait Alors on jase à Radio-Canada que j'ai arrêté de me ronger les ongles. Ça fait aujourd'hui 8 ans.
That's it!
Ça fait 8 ans au mois d'août que je me suis jamais rongé les ongles. Après, je me trouvais tellement coquet. J'étais comme, je peux pas défaire ce travail-là d'artiste. Puis là, je me ronge plus les ongles.
Extraordinaire.
Fait que j'aimerais bien ça.
On fait ça au manoir, mon gars, ça va être sick.
OK.
Je t'embrasse à distance.
À distance.
Embrasse ta fille pour moi, même si je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai hâte de la rencontrer.
Mais t'as vu des photos. Elle est extraordinaire.
Puis, longue vie.
Longue vie à toi. Longue vie à J'ai du temps, discute.
Longue vie à toi, mon ami.
Hey, puis bravo de recevoir des gens qui sont de milieux divers comme Jasmin.
Oui, Jasmin.
C'est ça, man, ce gars-là. Il faudrait qu'il aille son émission à lui ou quelque chose où on peut voir ce qu'il fait. Quel homme.
Il est vraiment, vraiment spécial.
Ouais.
Ouais.
OK.
À bientôt, mon gars.
Cheers.